Attendez, j'ai pas pris mon micro.
Vous savez bien que j'ai oublié un truc. Je savais que j'avais oublié un truc. Toi, j'avais fait un notif, j'avais fait une petite story, j'avais lu les journaux. Je suis arrivé à 4h30. Est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai ouvert le micro? Ouais, j'ai l'impression que je l'ai ouvert. Tout était OK. Je me suis fait le sommaire. Je vous ai préparé un petit sommaire. Maintenant, il y a un sommaire. J'avais pas pris de micro. On va commencer par vérifier le son déjà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, 4h30. Oui, 4h30 parce que y a des journaux à lire et puis puis il y a plein de petits dossiers en cours. Les petits mails et tout ce qu'on voit pas en live, quoi. Je me disais, il a changé le micro. Exactement. En fait, il n'y en avait pas. Exactement, exactement. On va rajouter les amis de TikTok. Hop, le chat ici, double chat, double plaisir. Bienvenue, amis de Twitch et de TikTok. Et amis qui nous écoutaient en podcast, puisque désormais, depuis une semaine, hein, ça a été lancé lundi, pas hier, lundi la semaine dernière, la revue de presse que vous écoutez depuis 5 ans sur Twitch, et ouais, 5 ans je vous ennuie avec tout ça, elle se retrouve aussi en podcast audio, hein, toutes les plateformes, les Spotify, les Deezer, etc. À partir de 16h en général, c'est posté à partir de 16h. Tu rajeunis? Je trouve pas, moi, merci GZD. Tu t'habitues surtout. Je pense que tu t'habitues. Ouais. Ah. Oui, c'est le Sweet The Event, exactement. Je regarde. Alors, dans une. Il est un peu grand, mais en vrai, je l'aime bien. Il est très beau derrière, surtout. Comment ça va? Bonjour tout le monde, me dit Lolo Coconut, je viens de rentrer ma garde de nuit, bravo à toi, je vais t'écouter en m'endormant tranquillement. Je suis là pour le chat, moi, notamment pour certains messages un peu mystérieux qui me font réfléchir et me font m'interroger sur le monde dans lequel nous vivons. Vérax vient d'écrire, c'est très intéressant et en même temps très mystérieux. Nous sommes dans une simulation cheat code en ligne. Vérifier l'historique, tu vois? Chacun de ces mots a du sens. Nous sommes, simulation, cheat code, je vois ce que c'est, tu vois. Mais c'est l'enchaînement de ces mots qui crée quelque chose de très intéressant. Ouais. Camoulox. Un autre message de Clamakin. Salut la team, je viens d'utiliser un mouchoir et je crois que c'était pas le mien, c'est grave. Il y a un monde où, oui, les petits virus, les. De cette rentrée là, il y a un petit peu de Covid qui traînasse, voilà, tout, et oui, oui, et puis, enfin, puis ça dépend à quoi ça sert une mouchoire par ailleurs, donc oui, comme nous dit Diesel, ça dépend ce qu'on a essuyé avec, ouais, tout dépend ce qu'il y a sur le mouchoir, on a compris. Tu lives de bon matin. Oui, normalement, alors 9h, c'est l'heure consacrée, c'est l'heure à laquelle je projette normalement de faire cette revue de presse tous les matins. Parfois, je suis en retard, il m'arrive de lancer à 10h. Voilà. Mais, très bonne question de Perle Nacré, à quand la paix pour les Palestiniens? Tu sais qu'on va longuement en parler ce matin avec le plan Trump pour Gaza, qu'est-ce qu'il vaut? On va en parler, quoi. Mais voilà, puis comme j'avais une réunion à midi aujourd'hui, ben, j'ai lancé à 9h. D'où le réveil à 4h30 du matin. C'est mignon ce que dit Simone Ovis. Elle, je suis en plein projet d'entrepreneuriat. L'occasion pour moi d'encourager tous ceux qui se veulent se lancer. Foncez, vous apprenez tellement sur vous-même, sur les autres, c'est tellement enrichissant qu'il n'y aura aucun regret. Ouais. Il n'y aura plus de sommeil non plus, mais. Oui, la une de Libé notamment. Ouais. Salut Charlie. Salut Samuel, d'habitude, je te regarde le soir, surtout sur Valo. Tu vas voir, c'est le même bonhomme. On parle pas les mêmes choses, c'est tout. Ça renforce les défenses immunitaires, nous dit Youmioum à propos du mouchoir dont on parlait tout à l'heure. On dormira quand on sera mort. Vous êtes plusieurs à le dire dans le chat. Ouais. Tu trouves pas ça anxiogène, les news au quotidien? Si, Youm, mais ça va. On est habitué, on s'est habitué. Ça fait 30 ans que je raconte mes histoires. Réunion avec France TV? Ah non, non. Ah non, non, c'est pas du tout avec France TV, non. Ah non, non, c'est justement avec l'équipe qui s'occupe de mettre en ligne mes podcasts de revue de presse. Ah non, des réunions avec France Télé, il y en a. J'allais dire plus beaucoup, mais. Il n'y en a pas, en fait. Non, moi, 99% de mon temps de cerveau disponible, il est pour les plateformes maintenant. Salut, Gira Benelli. Alors, iTélé, waouh, c'est un bon souvenir, ça. C'était de belles années, c'était une belle rédaction. Et on oublie tout, parce que la plus belle annonce de ce matin, elle est faite par Toms. Je vais être papa. Bravo à toi. Est-ce que ça ne te donne pas un certain détachement, comme si tu étais déconnecté, comme si tu contais une histoire? Non, parce qu'en fait, ces sujets d'actu, ils m'intéressent vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas forcément une bonne chose, mais moi, je vis vraiment l'actu, quoi. Enfin, il m'arrive, et hélas, je pense que je suis un peu trop sensible là, sur ces sujets, de pleurer quand je lis un article, quoi. Donc non, on s'habitue pas. On s'habitue pas, et puis en même temps, on se dit que c'est important de le faire, d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Donc après, je fais attention aux doses d'actualité que je prends, et c'est un truc que je vous dis très souvent. C'est-à-dire que attention à la dose d'actualité que vous prenez tous les jours, quoi. On est dans un monde où on est surexposé. C'est du gros, on parle de Gaza tous les jours ici. Voilà. Et selon un conducteur assez précis qui est issu de la lecture de mes journaux, des sujets que je propose, des articles. Donc par contre, on ne répond pas aux interpellations, puisqu'on n'est pas chez McDo, en mode, c'est quoi ton message que tu as spammé plusieurs fois déjà? Un mot pour tes confrères journalistes à Gaza? Alors les journalistes palestiniens à Gaza, on a beaucoup parlé sur cette chaîne, mais on n'est pas chez McDo, donc bon, une frite? Eh ben non, ça passait pas comme ça. Donc on a parlé beaucoup de fois, parce que c'est terrible ce que vivent les journalistes palestiniens à Gaza. Ici, longuement, en lisant des témoignages de ces journalistes, en en parlant ensemble. Mais voilà, mais par contre, c'est pas le service à la demande. Parce qu'à un moment, vous allez être 3-4 000 sur Twitch, vous allez être entre 500 et 1 000 sur TikTok. T'imagines si chacun interpelle avec sa question du moment. Puis non, t'as Internet. T'as Google. T'as ChatGPT même. À se méfier quand même. Donc attention à la dose d'information. Bon, c'est du rond. On va l'inviter à s'apaiser. On va pas le bannir parce que je suis pas trop ban moi, mais on va l'inviter à aller boire de l'eau, à respirer et à revenir littéralement demain. Voilà. Donc je te dis à demain. Voilà. Voilà. Non, c'est pas la censure, c'est juste que voilà, il faut préserver le chat des spammeurs, des gens qui ont une idée en tête et qui viennent pas tellement pour échanger ni avec moi ni avec vous, mais surtout pour dire des choses. Voilà. Non, c'est pas les gens sont méchants, c'est que les gens ne comprennent pas cet exercice en fait. Donc pour préserver le chat de ce genre de comportement, je ne banne pas, je dis à demain quoi. Voilà. Et puis à un moment, peut-être que la personne va comprendre qu'on est là pour échanger. Voilà. Et pas pour proclamer ses idées à chacun quoi. Ah ça, il y a des nouveaux arrivés sur TikTok là. Attendez, excusez-moi, je m'en occupe. Voilà. Bon, est-ce que vous, ça va, vous? Salut, Faultinours Cars. Et dis donc, qu'est-ce que tu penses de l'autonomie de la Corse, son diesel qui est un habitué? Alors Gaza, effectivement, c'est des make-up beauty, on en parle tous les jours, ici littéralement, et on va en parler longuement aujourd'hui parce qu'il y a du nouveau, un truc un peu étrange. On a commencé à parler hier, vous l'avez en replay sur Twitch et YouTube, c'est proposition, un plan de paix de Trump pour Gaza, qu'est-ce que ça vaut? Voilà, on est assez loin de tout ce qu'il mettait en avant ces derniers mois, ces dernières années. Donc c'est assez étonnant, surprenant. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que ça peut mener quelque part? Dans quelle mesure Netanyahou peut-il accepter ce type de concession? J'ai beaucoup de questions là-dessus. On va en parler ce matin. Encore une magouille, se dit Fatih. Bah, c'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Voilà. Merci Triadayan. Merci pour le soutien. Merci Funky Mouli. Merci à toi. Merci Yom. Merci Relatope pour le 48e mois. C'est beau ça. Merci Openprenus pour le 6e mois. Merci Marvex. Pardon, je n'avais pas vu. Bon, sinon son image, c'est bon pour vous? Ça marche? Tout est OK? Les bateaux arrivent quand à Gaza? On suit la flottille, si on en parle régulièrement. Là, je pense qu'il reste quelques jours, mais dès que j'ai des articles intéressants là-dessus, je t'en parlerai bien sûr. Est-ce que j'ai fait du lancer de hache? Non, Florive, mais ça m'intrigue ça. Ouais, je vois parfois des vidéos sur internet de lancer de hache. Voilà. C'est dangereux ça, non? Parfois on voit les haches qui rebondissent et qui reviennent vers l'expéditeur. J'ai jamais fait ça. J'ai fait 2-3 trucs dans ma courte vie, mais pas ça, non. Merci Ronan pour le 50e mois. Ça, j'ai pas fait ça. Ils en ont fait la Zilane? Je devais être éliminé à ce moment-là parce que moi, à la Zilane, je n'ai pas joué au lancer de hache. Mais je pense que avec Tommy, j'ai dû être éliminé avant. Safran, en fait, pour répondre à ta question, Seduro est un habitué de ce chat et vient toujours avec la même question. Donc il ne vient pas pour l'échange. C'est-à-dire, à un moment, il y a très peu de choses que je sais faire, mais alors j'ai une très bonne mémoire visuelle des pseudos. Voilà, donc en fait, alors je pourrais faire plus simple. Hein, c'est une fois que ce comportement est répété X fois, c'est de bannir et comme ça le problème il est résolu. Mais comme je suis un peu. Que je trouve ça intéressant et je me dis toujours qu'il y a une possibilité à un moment que ça se transforme en autre chose, j'invite la personne à revenir. Donc le problème, c'est qu'elle revient, effectivement. La question était pas moins pertinente. Oui, là, vous êtes 390 juste sur TikTok. Et si chacun vient avec sa question, en fait, c'est pas, je ne suis pas ChatGPT. C'est ce que j'espère. Je sais pas si Safran, tu peux comprendre ce concept de je ne suis pas ChatGPT. Et en fait, la proposition éditoriale ici, c'est de lire les journaux du matin et de l'actualité du matin. Voilà. Et j'aimerais répondre à vos questions. Mais ça n'est pas la proposition de ce live, parce que littéralement, je ne pourrais pas faire, si je faisais ça, bah, le truc que j'ai envie de faire, c'est-à-dire faire une revue de presse. Est-ce que Safran, le concept de ça, tu l'as ou pas? Et sont tes confrères? Mais alors Safran, il n'a rien compris, il n'a rien entendu. La situation des journalistes palestiniens à Gaza, j'en ai parlé très longuement, en fait, en live déjà. Et en fait, on ne peut pas le refaire tous les jours, parce qu'il y a d'autres actualités. Là, par exemple, moi, ce matin, je vais vous parler du plan de Trump pour Gaza. Et donc, il suffit d'aller voir en replay si t'es un peu curieux sur Twitch ou YouTube ce qu'on a dit ce jour-là. Mais je peux pas faire ce travail à ta place. Encore une fois, on n'est pas chez McDo, quoi. Désolé, c'est pas un libre service d'actu, quoi. De temps en temps, il y a une question nouvelle sur un nouveau fait d'actualité. On a parlé de la Moldavie récemment, par exemple. On dit, tiens, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, il faut qu'on en parle. Mais pour le coup, j'ai déjà traité ce sujet, donc je peux pas répéter tous les jours la même chose. Sinon, on parle pas des nouvelles actus. Safran, tu captes à peu près tout ça ou tu veux pas l'entendre? Excusez-moi, j'essaie de faire comprendre à la personne. Je pourrais créer un stream de libre antenne où je réponds qu'à vos questions. Il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre. Il veut pas comprendre. Là, vous êtes 466 maintenant sur TikTok. Safran ne veut pas comprendre que un mec qui pop tous les jours à la même heure avec la même question, je ne peux pas lui répondre. Il répond, je vous lis son message. Je comprends Étienne, mon prénom c'est Samuel, peu importe. Mais c'est choquant ta réaction, on dirait de la ligne éditoriale de France Info. Vous voyez, je peux pas, je peux rien faire avec ça, moi. Là, tu m'emmènes sur la ligne éditoriale de France Info, je peux rien faire, tu vois. Et encore une fois, vous êtes là, pour TikTok, vous êtes 448. T'imagines si tout le monde faisait comme toi, c'est impossible, c'est invivable. Marrant, ça. Alors, à un moment, je fais un effort, puis à un moment, bah, du coup, je fais plus d'efforts. C'est là où, du coup, les gens se disent ouais, mais pourquoi tu fais pas d'efforts? Bah, parce que c'est parce que ça marche pas, quoi. Comme ça. Bon, allez. Bon, j'ai aussi une capacité à un moment à ne plus voir certains messages quand ils sont spammés, donc je vais utiliser ce talent-là. Bon. Don't feed the troll, comme dit Super. Le problème, c'est que le troll n'a pas toujours conscience d'être un troll. Bon. Est-ce que je vous fais un petit sommaire du coup pour passer à du contenu un peu plus pertinent? Sommaire, on fait ça? Voilà. Ok? Let's go. Alors, je vous explique le concept de ce qu'on fait ici. Depuis 5 ans maintenant, sur Twitch et maintenant sur TikTok, et puis aussi en podcast maintenant, c'est que tous les jours, parce que c'est mon petit plaisir, je lis les journaux avant de venir vous voir. Donc, hop, peut-être brancher ma tablette d'ailleurs. Ça, c'est les journaux que je lis le matin. C'est les petites notes. Alors, quels journaux? Pas tous, parce qu'en fait, bah, c'est toujours pareil. C'est toujours un problème de manque de temps. Moi, j'aimerais pouvoir lire la presse régionale, par exemple, qui est excellente, mais j'ai pas le temps. On pourrait lire la presse magazine en France, qui est excellente aussi, mais j'ai pas le temps. On pourrait lire la presse internationale. Il y a tellement de journaux internationaux passionnants, mais j'ai pas le temps. On pourrait lire une presse qui n'est que sur Internet, comme Mediapart, par exemple, et d'autres, Rue 89, il y en a plein. Mais j'ai pas le temps. Donc, moi, j'ai fait un choix éditorial pour que ça tienne en gros en 3 heures, qui est de lire la presse qu'on appelle quotidienne nationale. Bon, alors c'est un choix subjectif, éditorial, qui peut être remis en cause. Si t'aimes pas ces journaux, bah c'est très simple, en fait, tu consommes un autre rendez-vous d'info que celui-ci, mais moi, c'est mon choix. Parce que je l'aime bien. Alors, je vous la montre, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Voilà. Tous les matins, je lis Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, Libération, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos et L'Équipe. C'est mon petit plaisir. Donc, je lis ces journaux. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à la veille? Quelles sont les informations intéressantes sur un plan international, national, politique, économique, social, tech, science, sport, numérique, jeux vidéo, etc. J'espère que j'oublie rien. Et puis, je me dis, ok, qu'est-ce qui est nouveau par rapport à hier? Parce que c'est l'intérêt de la presse quotidienne nationale, c'est que tous ces journaux essayent de traiter l'intégralité de l'actu. Voilà. Donc évidemment, ils ne traitent qu'une petite partie en vrai. Là encore, il y a des choix subjectifs. Donc, je choisis un certain nombre d'actualités. Ce matin, j'en ai choisi, par exemple, vous l'avez en sommaire, 2, 3, 5 seulement. Souvent, plus, c'est plutôt 6, 7, 8. 5 seulement. Et puis, souvent, dans une même actualité, je vais vous chercher plusieurs articles. Pourquoi? Parce qu'il est intéressant d'avoir plusieurs regards, plusieurs médias sur le même sujet pour pas avoir la même analyse. Et il est évident que l'Humanité propose pas le même regard sur l'actualité que le Figaro, que Libération, que l'Opinion, que La Croix, que les Échos, etc. Voilà, parce que ce sont des lignes éditoriales qui sont parfois radicalement différentes, quoi. Voilà. Et donc, je lis ces, je me penche sur ces actus, je lis ces articles, et après on en parle ensemble. Voilà. Et idéalement, avec des gens qui ne pensent pas comme moi, ça c'est plus intéressant. Et qui se disent, ok, l'autre petit vieux, là, je suis pas d'accord avec lui, mais j'écoute quand même, et puis en échangeant, essayons d'échanger nos arguments. L'idéal, c'est un chat où on se dit mutuellement qu'on n'est pas forcément tous d'accord, mais qu'on arrive à en parler ensemble. Vous voyez? Qu'on arrive à se dire les choses, voilà, sans violence, sans troller, sans. Oui. Voilà. Alors, c'est pas toujours facile, mais on essaie de faire ça. À 99%, les gens essaient de faire ça ici. Parfois, il y a des gens qui sont pas d'accord avec cette proposition. Mais on essaie de le faire avec. Voilà. Ça, c'est le parti. Alors, Yoann, j'ai pas la réponse. Selon toi et selon vous, le chat demande Yoann, vous avez peut-être une réponse à lui apporter. Est-ce que les journaux français sont meilleurs que les journaux étrangers? Sur l'objectivité et la transparence, je me demande, car on entend beaucoup parler des journaux anglophones comme figure de référence. Ça, c'est une bonne question. Moi, je connais mal la presse internationale. J'ai beaucoup étudié la presse internationale quand j'étais jeune journaliste. Et je l'ai parfois lu, la presse britannique notamment. Mais mon niveau en anglais ou en espagnol, par exemple, n'est pas suffisant pour consommer cette presse au quotidien, quoi. Je pense que c'est vraiment, comme le dit Sugar, très spécifique à chaque pays, quoi. En Grande-Bretagne, il y a une presse dite populaire, il y a une presse dite de qualité. En Allemagne, il y a de très bons journaux. En Espagne aussi, en Italie. En fait, je pense pas qu'il y ait de bons médias en tant que tels dans un pays par rapport à d'autres. Tu vois, un espèce de fait national. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il y a des médias de qualité et de moins bonne qualité dans chaque pays. Les journaux étrangers donnent plus d'informations sur Gaza. En tout cas, Perle Nacrée, les journaux que moi je lis parlent de Gaza tous les jours. Donc peut-être que tu ne alors, tu vois, c'est ce que je disais, il y a des médias de qualité, d'autres moins. Les médias que moi je consomme parlent de Gaza tous les jours, les journaux que je vous montre là. Donc peut-être que certains médias que tu vois passer devant tes yeux, eux n'en parlent pas. Mais peut-être que tu ne regardes peut-être pas les bons médias. Oui, The Guardian, par exemple, c'est un très bon journal. Ouais. C'est une bonne question en vrai. Merci Enkidu, merci Sereco, merci InsertCoin, merci Chep69, merci la biche du gaming, merci Graceware, merci Ronan. Vous êtes incroyable. The Economist, à une époque, je me piquais de lire The Economist, ouais. Mais mon niveau d'anglais est quand même insuffisant, quoi. Tu te lèves à quelle heure? Bon, en général, je me lève tard, hein. Je me lève 6h. 6h, 6h30, un peu plus tôt ce matin, parce que j'avais beaucoup de travail à faire avant la revue de presse, donc c'était un peu plus tôt. Mais 4h30, de ce qui était encore en limite de grasse matinée, parce que longtemps, pour ce qu'on appelle les matinales en radio et en télé, le réveil sonnait à 2h. Donc aujourd'hui, 4h30, aujourd'hui, on est déjà dans un début de grasse matinée, donc tout va bien. Au revoir, Safran. Allez, on fait un sommaire, ok? En général, on essaie d'échanger une demi-heure avant. Et puis après, on rentre dans le détail. Alors au début, il y a un sommaire où, pour ceux qui ne peuvent pas rester 2 ou 3 heures avec nous, vous avez l'essentiel de l'actualité. Hein? Alors ce matin, voilà de quoi je vais vous parler. Le sommaire, il débute donc à 25 minutes, c'est parti. Je vous mets aussi les TC, les timecodes, les moments depuis le début du stream à partir duquel on commence à parler d'actu, comme ça, en replay, eh ben, vous retrouvez assez facilement sur la timeline le rendez-vous. Là, par exemple, 25 minutes, on commence le sommaire, et on va parler. Alors moi, c'est vraiment un truc qui m'intrigue beaucoup, ça. C'est ce plan Trump pour Gaza. Hier, j'ai vu passer un article, on en a parlé hier, je crois déjà dans Le Parisien, c'était le seul journal qui en parlait, qui était en train de nous dire, et je crois bien que c'était dans Le Parisien, j'espère que je dis pas de bêtises. Il y a Trump qui arrive avec un plan pour Gaza, un plan de paix pour Gaza, qu'il va essayer de vendre à Netanyahou qu'il recevait hier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme le dit Pierre Nacré, c'est bizarre. Ben oui, c'est bizarre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La dernière position marquante de Trump sur Gaza, c'était la Riviera. C'est quoi? Il voulait transformer Gaza en Côte d'Azur, en invitant tous les Palestiniens à partir dans d'autres pays et en disant, bah, puisque tout est rasé, on va fabriquer des beaux immeubles. Des beaux hôtels pour les touristes internationaux. Waouh! Voilà, exactement Tibor, ce projet de Riviera. Et là, hier, on découvre autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, par exemple, il y a Usurette qui dit c'est intéressant, c'est pas un plan de paix, mais c'est un plan marketing. Bah, c'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Donc, on va lire des papiers là-dessus. Parisien, Trump dévoile son plan pour Gaza. Le président des États-Unis a reçu Netanyahou, premier ministre israélien. Hier, pour affiner les contours du projet censé garantir la paix. Bon, on se penchera là-dessus. Dans le Parisien, attendez, je vous mets là. Hop, c'est ici. Et alors, Libération consacre sa une à ce sujet. Bon, quand un journal consacre sa une à un sujet, c'est qu'il estime qu'il est important. Et il se pose la question que beaucoup se posent. Est-ce que c'est l'heure de la paix, L apostrophe HEURE, ou est-ce que c'est un leurre? Hein, un faux semblant, très joli titre de Libé, l'heure de la paix. Trump a annoncé que Netanyahou avait accepté hier à Washington son projet d'accord, okay. Assurant Israël de son soutien dans la poursuite de la guerre si le Hamas le refusait. Parce que dans ce truc, il y a une espèce de deal en disant, ok, c'est là où c'est un peu chafouin. Netanyahou a dit ok à mon plan. Voilà, maintenant la balle est dans le camp du Hamas. Si le Hamas dit non, eh bien, je soutiens le gouvernement israélien dans sa guerre radicale contre la masse, et vous savez ce que ça donne pour les populations civiles de Gaza. Voilà. Donc, on lira l'édito de Devalfon sur le sujet, on lira le dossier de Libération pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Je me pose beaucoup de questions sur ce plan. Trump est aussi à la une de l'Humanité avec cette question. Alors, elle est très forte. Dans le chat, tous les matins, il y a des partisans de Trump. En France, il y a des partisans de Donald Trump, des gens qui trouvent que c'est formidable ce qu'il a fait lors de son premier mandat, c'est formidable ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire dans son deuxième mandat, enfin, voire troisième, puisqu'en fait, selon beaucoup de ces personnes, on lui a volé le deuxième. Hein. Il aurait dû être élu. D'où la marche sur le Capitole. Pardon. Donc, alors ça, je me dis que c'est une qui va mettre en colère ses soutiens de Trump. Aspirant dictateur. L'humanité se demande ce matin si Trump, élu démocratiquement dans une démocratie qui est les États-Unis, est un aspirant dictateur. Tu vois, ça met très en fort Kevin Danois dans le chat. C'est très intéressant. En même temps, c'est très attendu aussi, quoi. Imperator, l'assaut contre l'Amérique, Luma écrit ce matin, disposant quasiment des pleins pouvoirs, le président républicain profite de son second mandat pour tenter de remodeler en profondeur les institutions et la société. Bon, il n'y a pas que Luma qui le dit, il y a aussi des élus démocrates aux États-Unis, il y a aussi des Américains qui s'opposent à ce système. Ces pratiques autoritaires contribuent à aggraver un état de guerre civile froide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là aussi, on va essayer de lire ce dossier pour essayer de comprendre. C'est la une de Luma ce matin. Voilà. Par curiosité, ça existe des magas français? Ah oui, Zinedine Schumacher. Ah oui. Ah oui, il suffit de lire ce chat. C'est un plaisir tous les matins. Oui. Et on a là une historienne, je crois. Oui, c'est ça. Sylvie Laurent, interrogée par l'Humanité, qui nous dit, aux États-Unis, un mécanisme de fascisation est sans conteste à l'œuvre. L'opinion, un journal libéral, assez proche des entreprises, plutôt des grandes entreprises. Alors, moi, ça m'a passionné. Nous propose un sondage. 2027, c'est loin, et en même temps, c'est très très près. 2027, présidentielle, sauf démission du président Macron d'ici là, mais ça semble pas prévu. Qui en aura? C'est pas une question anodine. Qui en aura comme président, comme présidente en 2027 pour la France? Bah, on a des sondages et l'opinion prend le temps de décortiquer un de ces sondages pour la présidentielle de 2027, avec notamment Marine Le Pen et Jordan Bardella intouchables. C'est-à-dire que Marine Le Pen testée dans les sondages malgré son comment le fait qu'elle soit aujourd'hui inéligible, eh bien ne dévisse pas dans les sondages. Hein. Édouard Philippe rattrapé par Raphaël Glucksmann. Hein. Troisième mandat pour Manu. Non, Chantal, c'est impossible constitutionnellement. Il peut pas, un président ne peut pas être élu trois mandats sous la cinquième. Hein. Sauf réforme constitutionnelle ou coup d'État. Donc je ne sais pas si Chantal, tu veux nous emmener vers ça, mais c'est la Constitution interdit trois mandats. Donc voilà, ce constat il est intéressant avec le dessin de CAC, le dessinateur CAC. Non, c'est pas trois mandats de suite, c'est trois mandats. Non, c'est trois mandats. Tu penses que c'est trois mandats de suite? Je crois pas. Ah, peut-être que je me trompe. Attends, je vérifie parce qu'on peut toujours se tromper. Trois mandats, c'est trois de suite. Ah, il peut revenir après? Ah, c'est deux mandats consécutifs? Ah, il peut revenir le coup d'après? Ah. Quoi, vous êtes en train de me dire que Macron va revenir après? Merde. Article 6 de la Constitution. Article 6 de la Constitution. C'est-à-dire qu'il peut revenir en quoi? 2027? 2032? Merde. Enfin, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Deux mandats consécutifs, t'as raison. Et oui. Ah, il peut pas trois mandats consécutifs, d'accord, ok. Ah, il peut revenir en 2032, ok. Article 6 de la Constitution, bien vu. Voilà. Bon, alors, en tout cas, il peut pas se présenter en 2027, il peut pas être, puisque ce serait un troisième mandat consécutif. Et la question, c'est qui on aura? Marine Le Pen? Jordan Bardella? Ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, c'est quoi? C'est Édouard Philippe? Jean-Luc Mélenchon? Raphaël Glucksmann? Bah, on fera un petit point sur les forces en présence, c'est pas inintéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un sondage sur la présidentielle de 2027. Ah. Je vois Jacques Cheminade dans le chat. Pourquoi pas? Chacun y va de son petit champion. Je vois du Dominique de Villepin, je vois du Retailleau. Je vois du Olivier Faure. Je vois du Poutou. Philippe. Quant à ma candidature, on en parlera tout à l'heure. 3 000 morts évitables. Ça, c'est le titre qui barre la une de La Croix. Voilà. C'est la sécurité routière. Ou plutôt, c'est l'insécurité routière. Ouais. Après avoir stagné ces dernières années, la mortalité routière en France, elle est repartie à la hausse cet été. Voilà. Alors que la tendance est plutôt à la baisse du nombre de morts sur les routes. Eh bien, c'est remonté. Alors, La Croix s'en inquiète. Voilà. Et nous indique que pourtant il y a des moyens, il y a des leviers qui existent pour faire baisser ce chiffre. Sugar me dit qu'il y a une raison particulière, bah, je ne sais pas. On va se pencher sur ces chiffres. La Croix, en tout cas, y consacre son dossier. Et puis on terminera. On terminera par cette vente annoncée du géant du jeu vidéo EA, Electronic Arts, dont on parlait déjà hier. C'est confirmé. Hein. L'Arabie Saoudite et le gendre de Trump font. Pardon, je vous lis. On fond main basse sur le géant du jeu vidéo EA. Alors, voilà. 55 milliards de dollars. 55 milliards de dollars, c'est beau. Hein. Oui, c'est vendu. Enfin, l'opération est prévue pour dans quelques semaines, je ne sais plus quand c'est. Mais c'est dealé. Voilà. 55 milliards de dollars. Pour nous donner une idée, Bayrou, le gouvernement qui a sauté juste avant, là, c'est parce qu'il voulait trouver des économies à hauteur de 44 milliards d'euros en France. Voilà. C'est pas cher, m'a dit Nordine. Alors, c'est pourtant la plus grosse opération de l'histoire. Comment on appelle ça? C'est un nom. Attends, c'est un nom particulier. Un LBO. Voilà, c'est quand l'achat est financé par de la dette qui se retrouve au passif d'entreprise que tu rachètes. Voilà. Non, c'est pas une OP, c'est un LBO. Voilà. Et c'est la plus grosse de l'histoire. Donc, c'est pas cher, c'est pas cher. Bah, ça me paraît beaucoup. Sarah, tu as littéralement le sommaire sous les yeux. En fait, il suffit de regarder le sommaire et tu verras que là, justement, on est dans le sommaire et qu'on va revenir sur Gaza tout à l'heure. Alors, Microsoft a racheté un studio pour 74 milliards. Je crois que tu parles de Blizzard, non? Et en fait, ça, c'est la plus grosse opération du marché du jeu vidéo ever. Donc, il est en fou. Peut-être pas tout rapporter à celle-ci. Voilà, ça reste une des plus grosses opérations, peut-être la deuxième, dans l'histoire de l'univers du jeu vidéo. Alors, je sais que pour vous, 55 milliards, ça n'est pas grand-chose. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça d'ailleurs. Moi, je trouve que la somme est pas ridicule en vrai. Et on verra qui achète aussi. Ah oui, on verra qui achète aussi. Ils vont nous tuer Battlefield avec des microtransactions de partout, putain de merde, me dit Brigitte. Bah oui, peut-être qu'il va falloir trouver des sous après pour. Ouais, exactement. Battlefield 6 qui sort bientôt. Hein. Ouais. Alors, Old Linux me dit, vu les franchises dans EA, parce qu'il y a FC, il y a Battlefield dont on parlait, franchement 55 milliards c'est presque peu, mais c'est quand même un énorme prix à sortir, quoi. Old Linux me dit, mais c'est pas déjà le cas les microtransactions? Il y a déjà de microtransactions de Battlefield? Moi, je ne joue pas encore à Battlefield, mais je vais jouer bientôt parce que avant que le 6 arrive, je vais lancer le 5. Il y en a partout, c'est vrai? Il y en a? Cosmetic skin? Ah bah comme Valo alors. D'accord. C'est un énorme prix, me dit Moulbit, mais avec toutes les franchises de dingue qu'il y a dans EA, ils auraient eu triplé, ce serait pas choquant. Okay. Les Sims, c'est EA, ouais, exactement, ouais. Monsieur Étienne, peut-on revenir sur Gaza, s'il vous plaît, merci. Bah, comme tu peux le voir, c'est le premier sujet qu'on va aborder dans un instant, juste après le sommaire. Je sais pas pourquoi j'ai fait le sommaire, tout le monde s'en fout en fait. J'ai fait un sommaire pour que les gens sachent donc quel sujet on allait aborder, mais je crois que les gens sont carrés le cul quoi. Donc là, premier sujet, effectivement, on va aller sur Gaza. Il est où le sommaire? Bah, il est là. Là, où c'est marqué sommaire. Je ne sais pas quoi vous dire. Vivement que tu rejoues à Fallout. Ouais, j'ai rien compris à ce jeu. J'ai rien compris à ce jeu. J'ai littéralement rien compris à ce jeu. De rien pour le sommaire, merci. Je vois que certains ont réussi à le trouver. Allez! Bon, là, moi, j'ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe avec ce plan de Trump pour Gaza. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'il y a un entourloupe? Let's go, c'est parti. Ok, 38 minutes, bim bam, on y va. Sommaire, donc, 38 minutes, on commence à se pencher sur ce plan de Trump. Pour Gaza, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. On a commencé à en parler vite fait hier. Hop, et je vous mets sur TikTok aussi. La même chose.
la petite flèche, vous expliquerez ce qui arrive après. Hein. La petite flèche, elle est en face du truc qu'on est en train de faire. Donc là, on vient de faire le sommaire. Et là, on va sur Gaza. Okay. Si quelqu'un arrive en disant, mais quand est-ce qu'on parle de Gaza? Ok, d'accord. Et je me lance un petit expresso aussi. Mais pour 2 secondes. On ira le chercher tout à l'heure. Alors, quand il sera chaud. C'est parti. Amis Twitch, amis TikTok, amis qui écoutez cette revue de presse en podcast, quelle que soit la plateforme, bienvenue et c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce plan de Trump pour Gaza? Le président des États-Unis a reçu hier lundi Benjamin Netanyahu, donc le premier ministre israélien, pour affiner les contours de ce projet censé garantir la paix. Censé, bien sûr. Article de Johanna Blin. C'est une journée historique. Bon, ça doit être les mots de Trump. Oui. À peine la conférence de presse lancée hier, Trump s'est auto-congratulé de l'accord à venir négocié avec Netanyahou. Comme pour sceller sa gloire, il a annoncé la création d'un bureau de la paix qu'il présiderait en personne et où, promet-il, tout le monde voudra être. Ok, pour l'instant c'est pas très clair, mais on va avancer. L'ambition de ce plan d'à peine 3 pages, articulée autour de 20 points, est immense. Mettre un terme à une guerre déclenchée par Israël après le 7 octobre qui a fait plus de 65 000 morts à Gaza et frappé l'enclave d'une famine. Né de la plume d'un trio inattendu, l'émissaire de Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, son gendre, Jared Kushner, le gendre de Trump, qui est aussi dans... l'achat de Electronic Arts, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. On verra de ça tout à l'heure. Il est partout. Et l'ancien Premier ministre Tony Blair, britannique. Le texte a déjà été dévoilé à plusieurs États arabes et musulmans mardi dernier en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Ouais, c'est ça, il est bien dans l'achat. Hein. Okay. Le projet, qu'est-ce qu'il y a dedans? Promet d'abord un silence des armes durable, un cessez-le-feu permanent garanti par le retrait des forces israéliennes jusqu'à la ligne convenue. Okay. C'est quoi la ligne convenue? Il entend aussi régler la question des otages. Leur libération, qu'ils soient vivants ou morts, devrait intervenir sous 72 heures. C'est ce qui est prévu dans ce texte. D'après ce que j'ai entendu, le Hamas est d'accord. Un petit peu flou, ça, quand même. A assuré Trump. En retour, Israël devrait ouvrir ses prisons et libérer 1700 détenus palestiniens. Enfin, pour l'avenir de l'enclave, le texte esquisse la mise en place d'une autorité de transition composée d'un comité palestinien technocratique et apolitique. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce comité palestinien technocratique et apolitique? Qui seront les Palestiniens dedans? Sous supervision américaine. C'est un plan sérieux, dit qui? David Rigolet-Rose, qui est un chercheur français. Chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, pour lui, le fait que Trump ait d'abord sondé les pays arabes avant d'en parler à Benjamin Netanyahou montre bien que ce soutien à Israël n'est pas illimité et qu'il doit tenir compte des positions de ses alliés des pétromonarchies. Les médiateurs qataris et égyptiens ont remis le document au Hamas, selon un responsable au fait de discussion. Okay. D'abord les infos et après on en parle ensemble, d'accord? Vous nourrez votre sentiment là-dessus. J'aimerais pouvoir lire toutes vos réactions qui sont très intéressantes par rapport à tout ça, mais sinon, pour les gens qui écoutent, qui essaient de comprendre ce qu'il y a dans ce texte, on ne va pas avancer. Mais après, on va le faire. Sous l'insistance des pays arabes, Trump a renoncé à l'hypothèse d'une délocalisation des Gazaouis. Le fameux plan Riviera, vous savez, dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, allez, tout est rasé, on construit des beaux immeubles, des beaux hôtels pour les touristes, c'est formidable. Une nouvelle Riviera et les habitants de Gaza, bah, ils iront ailleurs. Ça, a priori, Trump y a renoncé. Personne ne sera forcé de quitter Gaza, a averti la Maison Blanche. Ça, c'est extrêmement nouveau dans la bouche de l'administration américaine actuelle. Mais, et on s'en rend bien compte d'ailleurs, le plan conserve beaucoup de zones d'ombre. Il ne précise ni où seront installés les Palestiniens durant la mise en œuvre du plan économique Trump pour reconstruire et dynamiser l'enclave, ni qui financera la réhabilitation des infrastructures et la remise en état des hôpitaux promises également dans ce plan. L'entrée et la distribution de l'aide humanitaire devront, elles, s'effectuer sans interférence des deux parties, via l'ONU. Une concession paradoxale, note David Rigoleros, quand on connaît la considération de Trump pour l'ONU, mais il sait que c'est la condition pour rendre son plan recevable aux yeux des pays arabes. Autre sujet explosif, le retrait progressif de Tsahal, c'est l'armée israélienne, de Gaza. Netanyahou aborde ce point sous la contrainte de ses ministres d'extrême droite, puisqu'on va rappeler que Netanyahou ne reste au pouvoir que grâce au soutien de l'extrême droite israélienne. Bezalel Smotrich, et qui a dégainé un long message sur X pour rappeler ses lignes rouges. Voilà. Je ne vois pas comment l'extrême droite israélienne pourrait accepter ce plan d'ailleurs. C'est une des questions que je me pose ce matin. Merci Caroxys, merci Poxy, merci Lexis, merci Enkidu, merci Sirico, merci Tam to Shine, merci Black Pearl. Au cœur de ces revendications, que l'armée israélienne conserve une liberté totale d'action dans Gaza, même en cas de cessez-le-feu. Ça, c'est une des revendications de l'extrême droite. Attendez, je prends le temps, parce que j'aurais bien comprendre ça, moi. Oui, c'est ça, c'est bien ce que réclame l'extrême droite. Fait notable, Netanyahou a ce lundi et pour la première fois décroché son téléphone pour appeler son homologue qatarien du Qatar. Je comprends, Captain, je suis habitué, moi. Et présenté des excuses après les frappes israéliennes du 9 septembre censées viser le Hamas, mais qui avaient tué un garde. Un geste inédit, signe peut-être d'un étau américain qui se resserre autour de Netanyahou, et ça, on va en parler. Veto toutefois d'Israël, deux points ouvrez les guillemets. Netanyahou s'est opposé durant notre entretien à la création d'un État palestinien, a déclaré Trump. Quelle énorme surprise que Netanyahou s'oppose à la création d'un État palestinien. Évidemment, pas du tout. Ne reste plus que l'accord du Hamas pour mettre ce plan garantissant une paix pour l'éternité. Il manque un mot là. Ne reste plus que l'accord du Hamas pour mettre ce plan garantissant une paix pour l'éternité. Mettre au point. Il manque un mot, non? Ne reste plus que l'accord du Hamas pour mettre ce plan. Mettre en œuvre, peut-être, ouais. Vous êtes d'accord, il manque un mot. Hein. On est d'accord. Garantissant une paix pour l'éternité, selon Trump. Si le Hamas refuse, Israël aura tout notre soutien pour faire ce qu'il a à faire.
Alors,
bon, on apprend des choses, mais il y a un milliard de questions. Voilà. À quel moment le Hamas peut accepter ce plan? À quel moment l'extrême droite israélienne peut accepter ce plan? Alors après, si on demande, c'est évidemment, si on demande aux partis extrémistes dans la région, et je parle ici du Hamas et des partis d'extrême droite israéliens, si on leur demande d'avancer vers la paix, il y a peu de chances qu'ils soient OK de toute façon. Mais donc les réactions ne sont pas très surprenantes. Mais du coup, comment ce plan va-t-il s'imposer, quoi? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un gros dossier dans Libération sur ce sujet. Peut-être qu'on va comprendre un peu plus. Mais je vais vous lire d'abord. C'est vraiment flou, me dit Scofield. Oui, je suis d'accord. Et puis derrière tout ça, je me demande quelles réelles attentions ont les Américains. Alors, je me pose les mêmes questions. Alors après, ce plan est, par son ton, ses propositions, quand même extrêmement éloigné de ce que disait Trump jusqu'ici. Alors, qu'est-ce que ça cache? Est-ce qu'il a changé d'avis sur le conflit? Est-ce qu'il en a marre de se faire rouler dans la farine par Netanyahou? Est-ce qu'il a noté que l'opinion publique américaine était peut-être en train de changer de position, notamment la jeunesse américaine, sur cette question? Et y compris une partie des juifs américains. C'est un sujet dont il faudra qu'on reparle aussi. Est-ce que son rêve d'être prix Nobel de la paix, comme le dit Dupignol à l'instant dans le chat, est tellement important que ça l'a fait évoluer? Voilà. Pose beaucoup de questions là-dessus. Je vous lis un petit peu. Après, je vous répète régulièrement à propos de Trump que l'homme est un opportuniste, au sens négatif et positif. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a un corpus idéologique extrêmement figé, et c'est quelqu'un qui change régulièrement d'avis sur certains sujets, selon son intérêt, selon les intérêts de ses affaires, selon les intérêts éventuellement des États-Unis. Donc, alors le côté négatif, c'est qu'on pourrait le qualifier de girouette, hein, de quelqu'un qui est poétiquement et intellectuellement inconsistant, voire instable. Le côté positif de ça, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de changer d'avis. Voilà. Donc, pourquoi pas sur Gaza? Après tout, si ça doit participer à ramener la paix dans la région. Et vous verrez, Libé essaie de comprendre un petit peu et dit qu'en fait, Netanyahou fait mine d'accepter ce truc parce qu'il pense que le Hamas va le refuser et ça lui permettra au final de dire, bon, vous voyez, votre truc ne marche pas, quoi. C'est ce que je spoil un petit peu Libération, mais je crois que c'est l'analyse de Libé qu'on va lire dans un instant. Je sais, j'ai oublié mon expresso, j'y pense très très fort, mais je voulais pas vous abandonner sur ce sujet. Coucou Samuel, je le savais-tu, j'ai un cours de maths dans 10 minutes, peux-tu envoyer un message d'absence pour ma prof? Bien sûr, Titi. Bien sûr. Les maths, c'est important en vrai. Hein. N'oublions pas, me dit Caillon Félicité, que cet homme est un homme d'affaires, il traite tout comme ça. Oui, tu as raison. Allez, expresso, et on va lire ce dossier de Libé. Les maths, c'est le langage de l'univers. Ouais, mais c'est pour ça que je comprends pas l'univers alors. Ok. Est-ce que ce dossier de Libé nous va permettre de comprendre un peu mieux le sujet? Alors j'aime beaucoup le titre de Libé. Est-ce que c'est l'heure de la paix, je vous le disais? Et je l'épelle pour nos amis qui nous écoutent en podcast. Est-ce que c'est l'heure de la paix, L apostrophe HEURE, l'heure de la paix? Time for peace? Ou est-ce que c'est un leurre de la paix, LEU2RE? Est-ce que c'est un faux semblant? Est-ce que c'est un mensonge? Risque. Bah, déjà, on va lire l'édito de Devalfon qui va peut-être nous donner son avis. Alors, c'est peut-être pas. On va trouver ça pertinent, pas pertinent, mais déjà, c'est un avis sur le sujet. Risque. En recevant lundi Netanyahou à la Maison-Blanche pour le forcer à accepter un accord de paix en 20 points pour le Moyen-Orient, le président Trump avait pris un risque énorme et s'était mis dans une situation de faiblesse. Car seul un des deux leaders avait intérêt à ce que leur rencontre débouche sur un plan concret et ça n'était pas le Premier ministre israélien. En gros, celui des deux qui voulait un plan pour Gaza, c'était Trump et pas Netanyahou. Tu m'étonnes. Et pourtant, on pouvait avoir l'impression lundi que si ce plan avait été approuvé, et que le président américain avait réussi à imposer aux Israéliens un accord pour la paix éternelle entre Israël et la Palestine. Mais ça n'est pas pour rien que Netanyahou écrit, c'est de Valfon qui a écrit cela, ouais, écrit de Valfon dans Libé, ce n'est pas pour rien que Netanyahou est surnommé par ses adversaires politiques le prestidigitateur. En examinant les détails de l'accord, envoyé à la presse avant même sa présentation survoltée, on pouvait voir le trou de souris, c'est l'analyse dont je vous parlais tout à l'heure, le trou de souris par lequel le Premier ministre israélien pouvait espérer s'échapper de ce cauchemar. À aucun moment, Netanyahou veut la paix dans la région, lui. C'est justement la guerre qui fait qu'il reste au pouvoir. Car tout, absolument tout, le repli de l'armée israélienne, l'entrée de l'ONU, la libération des otages, l'arrêt de la colonisation israélienne en Cisjordanie, le retour aux accords d'Abraham, le patronage de Tony Blair, tout repose sur l'acceptation par le Hamas. Qui n'avait pas été officiellement consulté, un Trump, il dit je crois que le Hamas est OK. Je crois que le Hamas est OK. Je crois que le Hamas est OK. Voilà la source, quoi. De se saborder contre une amnistie qui serait accordée à ses membres qui accepteraient de rendre les armes. Le pari Netanyahou est donc que l'organisation terroriste, le Hamas, fasse le travail pour lui, rejetant dans les 72 heures fatidiques le plan que lui-même est forcé d'accepter. Cette option rapidement abordée par Trump, longuement développée par Netanyahou dans la conférence de presse, devrait, selon l'accord, donner à Israël la permission de détruire le Hamas par la force s'il le faut. D'après ce que j'ai compris, si le Hamas ne donne pas son accord, Trump a dit, OK, dans ces cas-là, je donne mon feu vert à Israël d'y aller franchement, quoi. Pardon, je lis un message de Kevin Danois, il faut que je vous le lise parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour rire ensemble. Kevin Danois écrit: Pour rappel, Trump a réussi à stopper 7 conflits partout dans le monde. Il travaille réellement pendant que les gens ne font que le critiquer honteux. Quelqu'un me demandait s'il y avait des gens MAGA en France tout à l'heure. Alors, les 7 conflits résolus dans le monde par Trump, ce sont des éléments de langage de son discours de Trump à l'ONU qui a fait rire le monde entier, y compris les gens qui étaient concernés par ces conflits d'ailleurs. Voilà. Les gens qui ont entendu ça, les fameux 7 conflits, ils disaient Trump, attends, t'as oublié des mots. C'est 7 conflits qui étaient inarrêtables. Ce sont les mots de Trump. Les 7 conflits inarrêtables que lui a réussi à arrêter. Sauf que la plupart des gens qui étaient dans ce conflit n'étaient pas au courant. Donc c'est amusant, ce sont vraiment les éléments de langage de Trump. C'est même pas tel média a dit que. Non, c'est vraiment les mots de Trump. Donc comme c'est Trump qui l'a dit, c'est vrai. Même si les principaux intéressés ne sont pas d'accord avec ça. Donc, c'est intéressant. Et ça répond à la question, mais est-ce qu'en France, il y a des gens qui sont « Make America Great Again » quoi ? Oui. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais oui. Alors, je reviens à mon propos, pardon. Mais il est bon de rire aussi. Autrement dit, retour à l'invasion de Gaza. Donc, si jamais... imaginons que... Le Hamas ne donne pas son feu vert à son plan de paix, donc Israël aura le feu vert par Netanyahou d'attaquer, de détruire le Hamas par la force s'il le faut. Autrement dit, retour à l'invasion de Gaza et sa colonisation, cette fois avec l'accord tacite des pays arabes et la bénédiction officielle de l'Amérique. C'est ça la question. Est-ce qu'il y a un piège en fait dans ce plan ? C'est ça la question que l'IB se pose. Interrogé sur la reconnaissance de la Palestine le 18 septembre, Donald Trump avait marmonné une de ces vérités de bon sens dont son électorat raffole. Vous savez, cette guerre dure depuis tellement longtemps là-bas, des décennies et des décennies. On peut espérer se tromper, mais le plan Trump risque de plonger la région dans une guerre de 20 décennies supplémentaires. Ce matin, on se pose la question de savoir si ce plan peut ramener la paix dans la région. Et l'IB dit, il peut peut-être faire l'inverse. Quoi. Merci Bifrost. Merci la Giacrus. Merci Sofiane. Alors, ça c'est l'avis de Dove Alphon. Et puis rentrons dans le détail de ce plan avec l'article de Libération signé Philippe Coste, qui est correspondant à New York de l'IB. Coup de bluff, coup de force ou égocentrisme traditionnel, le président des États-Unis a publié lundi son plan en 20 points pour Gaza sans attendre la conférence de presse qu'il devait tenir avec son hôte du jour, le Premier ministre Netanyahou, sans lui laisser le loisir de donner son avis ou son accord en direct. Tous les correspondants de la Maison-Blanche se sont mis à dérouler à l'antenne un plan dévoilé unilatéralement par voie de communiqué 15 minutes avant l'apparition des deux dirigeants. Là, Trump a déclaré « Nous sommes en train de vivre l'un des plus grands jours depuis... » les débuts de la civilisation, voilà, sont sciés à côté d'un Netanyahou réduit au silence. Voilà. Avant que le président américain ne fasse l'exégèse des 10-20 points, donnant une précision de taille, Israël a topé, selon Trump, a dit « ok », mais pas encore le Hamas. Et du pop, à un moment, il faut être cohérent. Pardon, je parle à quelqu'un dans le chat qui est très présent, qui est très... présent. Tu ne valides rien de cette proposition éditoriale, rien de ma démarche, rien de ce que je mets en avant. Il y a tellement de streams, il y a tellement de médias. En fait, tu perds ton temps, tu gâches ton temps. Je dirais, tu pourrais, je pense, faire plein d'autres choses pertinentes de ton temps. Et donc, je te rends service. Et je t'invite à aller consommer d'autres médias, parce que vraiment, il n'y a rien qui va pour toi. Là. Je viens de te rendre service. Donc, Israël a topé, Dixit Trump, mais pas encore le Hamas. Et la vie des Palestiniens, très bonne question, Bandilou. Nous sommes très très près, plus que très près d'un accord sur la guerre à Gaza, mais aussi sur la paix éternelle au Moyen-Orient, a-t-il assuré cependant crânement ? Les 6 sont de taille. Si elle est acceptée par le Hamas, cette proposition prévoit la libération immédiate de tous les otages. A précisé Trump, les otages vont rentrer à la maison, s'est-il félicité. Parlons même parfois de nos otages. Pour lui, ce plan signifie la fin de la guerre. Au bout de 36 minutes, Netanyahou a eu le droit de prendre la parole. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre parce que cela nous permet d'accomplir nos objectifs de guerre. La phrase est folle. Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre parce que cela nous permet d'accomplir nos objectifs de guerre. Avant une très sérieuse mise en garde, si le Hamas rejette ce plan, Israël finira le job.
Waouh.
Avant la conférence de presse, pendant la conversation à la Maison-Blanche entre les deux chefs d'État, une annonce avait déjà changé la donne. Après avoir pendant des semaines refusé de reconnaître le moindre tort dans l'attaque aux missiles de dirigeants et négociateurs du Hamas sur le territoire du Qatar, ce qui, est quand même, ce qui était un truc fou, le 9 septembre, Netanyahou, sous la pression de moins en moins amicale de Trump, a fini par appeler l'émir en personne depuis le bureau ovale pour lui présenter ses excuses, y compris pour la mort d'un agent de sécurité présent dans les locaux pendant le bombardement. Bon, ça, tu sens quand même qu'il y a la main de Trump, là. Et ça, on parlait déjà tout à l'heure. Trump, qui conçoit la fin des hostilités israéliennes comme un élément essentiel de sa postérité de nobelisable. On en parle du prix Nobel. Et la preuve de sa crédibilité internationale, n'a jamais renoncé à ressusciter et même élargir à d'autres pays le grand plan des accords d'Abraham. Accords d'Abraham, pour faire simple, si je ne dis pas de bêtises, c'est les accords de rapprochement, notamment diplomatique, entre Israël et les pays arabes de la région. Hein. Qu'il avait organisé en 2020, la fin de son premier mandat, pour assurer la normalisation historique des rapports entre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Israël, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Plus profondément, le climat de la relation israélo-américaine a changé. Après avoir semblé approuver tacitement l'enlisement d'Israël à Gaza, et même limiter sa réponse à l'attaque de Doha à des grognements sans lendemain, Trump voit désormais l'entêtement d'Israël comme un danger politique personnel. La reconnaissance de la Palestine par la France, mais aussi par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie a confirmé l'isolement d'Israël. Et dans le journal israélien Haaretz, Rachel Brandbourg, qui est la directrice du Israel Policy Forum à Washington, l'assure, Trump préfère les gagnants aux perdants.
Waouh. Allez, je vous lis.
Matt Pierrot dit, si ça peut éviter un génocide, j'ai aucun problème à donner un Nobel de la paix à un immense fasciste comme Trump. Matt Pierrot, je suis totalement d'accord avec toi. Si le prix de la paix dans la région... si le prix de la création d'un État palestinien dans lequel les Palestiniens peuvent vivre en sécurité, en paix, en coexistence avec un État israélien où les Israéliens peuvent vivre en paix, en sécurité. Si le prix de ça, c'est de donner le prix Nobel de la paix à Trump, donnons-lui. Après que ça a été fait, pas avant. Et il y a une médaille, il y a tout ce qu'on veut. T'as tellement raison. Je vous lis. Hein. Pardon, le chat défile très vite. J'essaie de lire vos messages. Je comprends un MG. C'est tout de même effrayant qu'un homme ait autant de pouvoir. Old Inox, alors déjà, il est le président de la première puissance mondiale, économique et militaire, et par ailleurs, il a une manière de... comment dire... De diriger le pays qui pose des questionnements sur... sur la nature même du régime politique américain. C'est la une de l'humanité qu'on va évoquer dans un instant. Est-il un aspirant dictateur ? Moi, j'aimerais pouvoir me projeter dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 10 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois, pour voir ce qu'est devenu ce plan, quoi. Est-ce que c'est un vrai... Est-ce que Trump a totalement changé d'avis sur Israël et sur les Palestiniens? Est-ce que Trump aujourd'hui pense qu'effectivement Israël est allé trop loin et qu'il faut ramener la paix dans la région et que la paix dans la région c'est un État palestinien avec ses frontières, avec une nouvelle gouvernance palestinienne, avec un Hamas démilitarisé, avec un stop à la politique menée par le gouvernement Netanyahou? Ça, c'est le côté, on va dire, le versant optimiste de cette lecture. Est-ce que c'est ça la nouvelle histoire? Est-ce qu'il va s'y tenir? Voilà. Est-ce que c'est pas ça du tout? Est-ce que c'est une gigantesque entourloupe? Voilà. Ce pseudo-plan de paix, en fait, est construit pour que le Hamas le refuse et que Israël puisse prendre à témoin les États-Unis en disant, vous voyez, nous on voulait bien, le Hamas n'a pas voulu, donc maintenant on reprend notre guerre. C'est en fait, c'est pour simplifier à l'extrême la question qui se pose ce matin, c'est celle-ci. Et ça, on le saura dans les prochains jours. On va le savoir assez vite. Ah oui, Chouini, tu as raison. Bon, quelque chose me dit qu'on en reparlera demain. Je ne vois pas comment les journaux ne peuvent pas revenir demain là-dessus. Ça me semble un des sujets les plus importants de l'actualité en ce moment, quoi. On en parle tous les jours, hein, de Gaza. Et bien, on va en continuer demain. Je vous donne rendez-vous. Voilà, voici pour les infos que j'avais ce matin. Par contre, on va continuer à parler de Trump. Apprenti dictateur ou pas? Ça, c'est un titre. C'est un titre qui a provoqué déjà beaucoup de réactions dans les chats tout à l'heure. Hop, Trump est-il un apprenti dictateur? Alors vous noterez que l'humanité ne dit pas dictateur. Hein, c'est 1h05. Apprenti. Comme apprenti magicien. C'est apprenti sorcier. Non, c'est Disney qui avait fait un film d'animation comme ça il y a longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, je vous mets sur TikTok, je vous mets aussi la petite flèche en face de Trump. Comme ça, ceux qui vont arriver en cours de revue de presse vont savoir qu'on a parlé de Gaza juste avant et que c'est en replay et que maintenant on parle de Trump. Comme ça, si quelqu'un pop dans le chat, ce qui va arriver d'ailleurs dans les prochaines minutes, il n'a pas parlé de Gaza encore hein, aujourd'hui. Hein. Vous pourrez lui dire, si, c'était l'apprenti sorcier. C'était tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quand même une sacrée accusation. Les États-Unis, même si cette démocratie est très imparfaite, est un système politique démocratique, avec des élections. Le président Trump a été élu 2 fois démocratiquement, même si au milieu, il y a eu un mandat dont il dit qu'on lui a volé. C'est une aberration parce que même les républicains ont essayé de lui expliquer que non, en fait, il avait juste perdu l'élection. Mais voilà. Et là, l'humanité nous dit, on est dans ce pays-là avec un président démocratiquement élu et ce monsieur serait un aspirant dictateur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que dit l'humanité? Et quels sont les faits? Quels sont les arguments de l'humanité pour affirmer ça? Le président des États-Unis met la justice américaine sous tutelle, instrumentalise l'armée, déchaîne la chasse aux opposants, sa dérive fascisante muselle tout contre-pouvoir. Voilà. On peut peut-être commencer par l'édito. Hein. L'avis de Stéphane Sahuk, c'est là-dessus ou pas? Ah non, c'est sur la taxe Zucman. L'édito est sur autre chose. On aura l'occasion d'en reparler puisque on attend avec impatience, je ne vous en ai pas parlé ce matin, mais... Les propositions, Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre de la France. D'abord, quel sera son gouvernement? Quel sera son projet de gouvernement? Quel sera son projet de budget? Est-ce qu'il y aura une réforme fiscale en France? Est-ce que les ultra-riches vont payer un peu plus? On attend. Aujourd'hui, il y avait vraiment zéro info. Pour l'instant, ça traîne. Donald Trump, Imperator. C'est quoi ça? C'était chez les Romains, ça? L'assaut contre l'Amérique. Disposant quasiment des pleins pouvoirs, le président américain profite de son second mandat pour tenter de remodeler en profondeur les institutions et la société. Ces pratiques autoritaires contribuent à aggraver un état de guerre civile froide. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En 1935, vous n'étiez pas né, moi si, depuis très longtemps, Sinclair Lewis, premier états-unien récompensé par le prix Nobel de littérature, socialiste engagé, formulait cette prédiction. Deux points, on voit les guillemets. Quand le fascisme arrivera en Amérique, il sera enveloppé dans le drapeau et portera la croix. Le débat pour déterminer si ce temps-là est arrivé n'est pas encore tranché, mais c'est bien sur le nationalisme et le christianisme politique que Trump s'appuie pour mettre en œuvre le projet 2025 de la Heritage Foundation, véritable feuille de route de son second mandat. Durant la campagne électorale, il avait plaisanté, mais plaisante-t-on vraiment avec ce genre de sujet, en affirmant qu'il pourrait être un dictateur d'un jour. Alors je me rappelle un peu du contexte de cette affirmation. Il n'avait pas vraiment annoncé qu'il serait dictateur, il avait dit « je ne serai pas dictateur, ou alors sauf le premier jour », faisant allusion au fait que tout de suite après son élection, il prendrait des mesures radicales, notamment pour couper dans les dépenses budgétaires de l'État, etc. Quoi. Bon. Donc sans être hyper trumpiste moi-même, il n'avait pas vraiment annoncé qu'il serait dictateur. C'était une formule, quoi. Quelques mois plus tard, enfin, lui m'a dit, on rigole pas avec ces choses-là.
Oui, c'est pas faux non plus, oui.
Durant la campagne électorale, bon, ça je l'ai déjà lu, pardon, je suis un peu gâteux. Quelques mois plus tard, il se comporte quotidiennement comme un satrape. J'aime bien ce mot qu'on n'utilise plus du tout. Un satrape, c'est quoi un satrape ? Satrape. Gouverneur d'une satrapie, ok. Homme puissant et despotique, personne riche qui mène grand train. Un despote. Un despote. Quelques mois plus tard, il se comporte quotidiennement comme un satrape contre tout ce qui s'oppose à son projet MAGA, donc Make America Great Again, dans une tentative de restauration d'une Amérique prétendument éternelle, le drapeau et la croix, chahuté par les mouvements d'émancipation de la société depuis les années 60. Et c'est justement à la période qui précède que le président de la nostalgie nationaliste renvoie l'Amérique. C'est intéressant. Ok. Je voulais bien comprendre ce que disait Luma, mais en fait, Luma cite Ken Paulson, qui est un Américain directeur du Free Speech Center d'une université américaine, qui dit, en fait, on est de retour dans les années 50 aux États-Unis. L'administration Trump a instrumentalisé récemment l'assassinat de l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk, dont on a beaucoup parlé ici, pour dresser, comme dans les années 50, des listes d'organisations de gauche à relier coûte que coûte à la violence politique. Les années 50, c'était pas le maccartisme ? C'est pas ça ? Cette nouvelle croisade prend aussi des airs de vendetta personnelle. James Comey, l'ancien directeur du FBI, ça on en a parlé hier, c'est ça, hein, maccartisme. A été inculpé quelques jours après un message comminatoire envoyé par Trump à la ministre de la Justice au mépris absolu de la séparation des pouvoirs. On l'a vu hier, l'ancien directeur du FBI, James Comey, qui est l'un des hommes qui se dresse sur la route de Trump aujourd'hui, Trump veut absolument sa peau, quoi. D'autres ennemis de l'intérieur suivront, il s'agit de la plus grande atteinte à la liberté d'expression depuis l'ère McCarthy. Donc on en est là, hein, c'est McCarthy, le maccartisme, la chasse aux sorcières, la lutte contre tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à un communiste à l'époque. Mais elle bénéficie d'un consensus populaire nettement moins important que lors de la deuxième vague de chasse aux communistes, explique un journaliste américain. Donc je ne lis pas tout le dossier, hein, je vous invite à lire, c'est dans l'Humanité, c'est pages 2 et 3, mais je vous lis les passages les plus importants. L'université, lieu de transmission du savoir, les médias sont désormais dans le viseur, donc il y a les opposants politiques, hein, on l'a compris. L'université, les médias, point commun de ces institutions, elles sont des entreprises recherchant le profit. Trump sait donc où frapper à la caisse. Il menace de retirer les fonds fédéraux aux établissements universitaires qui ne se conformeraient pas à un certain nombre de règles trumpistes. Je crois qu'il y a eu un bras de fer qui a été engagé par le président Trump avec des universités américaines, certaines très célèbres comme Harvard. Donc il y a des exemples qui sont donnés là. Donc on tape au portefeuille avec le financement, on s'en prend aussi au programme, aux thèmes abordés. Les inégalités raciales, les questions de genre font clairement partie des thématiques censurées, dit un professeur de sociologie dans cette université de Boulder, Colorado. Pour les chercheurs qui travaillent sur ces sujets, il y a de la pression, parfois imposée directement par les instances du gouvernement qui subventionnent la recherche pour éviter certains mots et euphémiser les sujets de recherche. Alors, on a beaucoup parlé aussi des attaques du président Trump ces derniers temps contre des présentateurs, contre des animateurs, contre des humoristes. L'affaire semble plus simple encore pour les chaînes de télé. Elles sont toutes détenues par des conglomérats. En juillet, CBS a versé 16 millions de dollars à Trump afin d'éviter un procès, puis a mis fin à l'émission de Stephen Colbert, l'un des humoristes les plus talentueux du pays, écrit Luma. En septembre, c'est Jimmy Kimmel, hôte d'un late show sur ABC, qui s'est vu suspendu par Disney. Hop, je rezoome sur l'article. Il ouvre l'article. Après une menace directe de Brendan Carr de la FCC, le gendarme des télécoms et l'audiovisuel, je crois que Jimmy Kimmel, il a été suspendu, mais il est revenu à l'antenne. Après la mobilisation des téléspectateurs. Les alliés de Trump contrôlent désormais X, Facebook, Instagram, WhatsApp et bientôt TikTok, puisque on sait qu'il y a un projet de vente de la branche américaine de TikTok. Voilà. À des investisseurs américains qui sont parmi des proches de Trump. Et ils détiennent Fox News, CBS, le Washington Post et le Wall Street Journal. Avec le ralliement de la Big Tech, l'écosystème trumpiste domine presque sans partage. Parlons de l'armée. La mobilisation de la garde nationale était un fait rarissime autrefois. Elle est devenue une pratique ordinaire. Cette force militaire de réserve patrouille dans les rues de places fortes démocrates, Californie, Washington DC, Memphis, bientôt Portland. À chaque fois, le prétexte est le même. La force armée est envoyée pour juguler une vague de criminalité qui n'existe que dans les fantasmes des républicains. Cette démonstration de force plaît à la base MAGA, persuadée que le pays est à feu et à sang. N'a-t-elle qu'une vertu galvanisatrice de ses électeurs ? Gavin Newsom y voit plutôt un jalon, selon le gouverneur de Californie. Donc il n'y a pas que des journalistes français qui s'interrogent là-dessus. Le gouverneur démocrate de Californie, il dit que Trump, que selon lui, Trump n'acceptera jamais de quitter le pouvoir et prépare un coup de Janak en 2028. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs, que je me suis emmêlé les pinceaux tout à l'heure avec le président français dont je disais un président français ne peut pas être élu trois fois. Il m'a dit, si, il peut être élu trois fois, mais pas trois fois consécutivement. En fait, c'est parce que je confonds avec le président américain. Le président américain ne peut être élu que deux fois en tout et pour tout. Donc, le président Trump, il a été élu une fois, il a perdu l'élection d'après, il a regagné là, il ne peut pas faire un troisième. Sauf modification de la Constitution. Sauf coup de Jarnac, dit l'humanité. C'est ça que j'ai confondu tout à l'heure. La justice. Donc on a parlé du pouvoir de Trump, enfin des actions très vives de Trump contre ses opposants, contre des universités, contre des journalistes, des animateurs, des humoristes. L'envoi de la garde nationale dans des villes démocrates. Et puis il y a la justice dont nous parle l'humanité aussi. La justice constitue l'autre arme du pouvoir trumpiste, le ministère supposément indépendant n'est plus que le bras armé de la Maison Blanche, tandis que le dernier mot sur la constitutionnalité des lois et décrets revient à la Cour suprême avec 6 juges conservateurs, dont 3 nommés par Trump, sur 9. C'est vrai que dans des articles précédents ces derniers jours, on a vu qu'il y avait beaucoup de tribunaux américains qui avaient cassé des décisions politiques de Trump, mais que quand l'affaire était remontée jusqu'à la Cour suprême, là, la Cour suprême, la plupart du temps, avait donné raison à Trump. D'une certaine façon, écrit l'humanité. Bon, là, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Merci Tipsy, merci Bifrost, merci encore Caroxys, merci Poxy, merci Atacantos, merci Zakop, merci Willouche. L'humanité écrit. D'une certaine façon, Trump dispose des pleins pouvoirs. L'armée est par définition aux ordres du commandant en chef. La convocation ce mardi à Washington, c'est aujourd'hui, ça on en parlera peut-être demain, des 800 généraux et amiraux en présence du président laisse augurer une nouvelle étape dans l'instrumentalisation de l'institution militaire. Ça c'est un truc dont je ne vous ai pas parlé, mais il y a plusieurs articles de plusieurs jours. Aujourd'hui, tu as tout l'état-major américain, tous les généraux amiraux qui sont convoqués par le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense, pour être précis, et le président américain. Et on ne sait pas trop pourquoi. C'est un peu mystérieux. Je vous en parlerai sûrement demain. Et ils font quoi ? Je ne sais pas. C'est pas très clair. Le Congrès à majorité républicaine ne joue pas son rôle de contrepoids. Les démocrates hésitent encore sur la stratégie à adopter. Leur establishment, apparaissant jusqu'ici plus mobilisé, a étouffé la dynamique de l'aile gauche qui a s'opposé frontalement à Trump. C'est très intéressant. Mais quelques brèches apparaissent comme autant de signaux positifs. Le projet d'envoyer la garde nationale à Chicago a été mis en pause à la suite de la réaction musclée des élus locaux. Le retour du show de Jimmy Kimmel, comme le départ précipité d'Elon Musk de sa fonction ministérielle, illustre le pouvoir certes limité mais réel des citoyens, citoyens slash consommateurs. Une bataille a lieu dans le champ de l'opinion publique et c'est un moyen dont disposent les opposants pour tenter de convaincre la population du danger que peuvent représenter certaines politiques de l'administration Trump. Les sondages sont au plus bas pour Trump, surlignant une absence d'adhésion aux politiques mises en œuvre. Cet état minoritaire du Trumpisme dans la société américaine ne doit cependant pas masquer le climat général que façonne sa rhétorique, estime Luma. La guerre civile froide, que pointait un journaliste qui s'appelait Carl Bernstein, devient chaque jour un peu plus chaude.
Ok, c'est le regard de l'humanité sur les États-Unis aujourd'hui. Après, à la lumière des exemples choisis par Luma, vous pouvez valider ou ne pas valider cette analyse, bien sûr. Je vous lis d'ailleurs, mon petit plaisir.
Question importante, est-ce qu'avoir un tyran à l'est, dit Stacy, qui utilise le mot tyran, et à l'ouest, va influencer toute l'Europe vers les extrêmes? En France, il y a des gens qui citent certaines actions de Trump pour dire, en gros, il nous faut la même chose. Ouais. Aux États-Unis, vous avez un secrétaire d'État à la santé qui est un opposant au vaccin, par exemple. Vous avez les anti-vax en France qui, sur les réseaux depuis quelques jours, quelques semaines, en fait, ne cessent de citer l'exemple américain en mode, vous voyez bien, si les États-Unis remettent en cause les vaccins, c'est donc que les vaccins, c'est pas bon. Donc oui, forcément, ça a une influence. Oui, la Moldavie a résisté. Oui. Les législatives ont finalement donné la victoire au camp pro-européen. Oui. J'aurais pu vous en parler ce matin, d'ailleurs. Salut, Lichabak. Je vous lis. Et je ne fais pas une mini-sieste. Parfois, je fais les deux, mais... Oui, Moumboum, 64, a raison. La polarisation des idées. Au sein même des nations semble une tendance globale dans les pays occidentaux, je suis assez d'accord avec ça, comme c'était le cas en Europe dans les années 30, avant la montée des régimes autoritaires qui ont mené la Seconde Guerre mondiale. Alors, les mêmes causes ne provoquent pas toujours les mêmes effets, mais je suis d'accord avec cette analyse. Il y a une polarisation des citoyens... Dans beaucoup de pays occidentaux. Ouais. En France, c'est une évidence. Merci, Malotru. Oui, des idées, oui, c'est ça. Ah, peut-être. L'Unix me dit que le sommaire serait plus lisible en minuscule qu'en majuscule. Je vous laisse me donner votre avis là-dessus. Alastair n'est pas très inquiet, il nous dit « Je suis prêt pour un monde post-apocalyptique, j'ai 700 heures sur Fallout. » Oh oui, le t-shirt Britney est trop, trop joli, le t-shirt, j'ai adoré. Salut mon pote courtier. C'était trop... bien cette soirée, c'est une bonne soirée. Notamment que la dame, là, à un moment que j'ai interviewé, qui est... dont une partie de l'affluence du public s'est demandé si tout allait bien. Je sais pas si tu vois. C'était drôle. Je vois que le débat minuscule, majuscule du sommaire n'est pas tranché. Je pense que je vais demander à Trump s'il ne peut pas intervenir pour régler ce sujet. Je vais lui envoyer un DM juste après ce live. Ok, let's go. Ah bah, quelqu'un me disait, hey, on passe à l'article sur le RN. Non, non, j'avais oublié que j'avais une interview d'un historien, d'une historienne, qui s'appelle Sylvie Laurent, dans l'UMA, sur les États-Unis. Hein? Prenons encore quelques minutes sur ce sujet. Et elle dit, cette historienne interrogée par l'UMA, un mécanisme de fascisation est sans conteste à l'œuvre aux États-Unis. Aux États-Unis, le débat alimente la chronique universitaire comme politique depuis des mois. Quelle est la nature du projet de Trump, hein, depuis son retour à la Maison-Blanche, manifestement différent de son premier mandat? C'est pas toujours facile à analyser, parce que, comme je vous le disais, l'homme est opportuniste par ses actions et ses idées, et c'est pas toujours facile de le définir, de le caractériser. Nous assistons, mais disait, dit cette historienne, à la mise en place d'un régime autoritaire d'extrême droite, qui bafoue les normes et règles de la démocratie libérale et qui instaure le règne de la domination arbitraire de l'État sur la société civile. Toute l'histoire américaine est précisément marquée par cette hantise d'un despote imposant son pouvoir discrétionnaire sur les individus souverains. Pour le coup, je ne sais pas si dans l'histoire des États-Unis, il y a un président qui, par ses décisions, s'apparente à Trump. Je ne suis pas un spécialiste de la vie politique américaine, mais il n'y a pas de parallèle qui me vient à l'esprit, quoi. Toute l'histoire américaine est précisément marquée par cette hantise d'un despote imposant son pouvoir discrétionnaire sur les individus souverains. Tout l'édifice politique, juridique et culturel des États-Unis repose sur la volonté de conjurer un César américain. Voilà. Ouais, Gurti, tu parlais de Nixon, ouais. Je pensais à ça aussi un peu. C'est tout le sens du premier amendement et du free speech dont on parle beaucoup en ce moment. Nul pouvoir public ne peut réprimer la parole des citoyens, leur droit inaliénable à la dissidence. Trump contrevient donc radicalement à l'histoire et même à l'esprit du pays, estime cette historienne, la violence d'État, l'intimidation, la corruption, les passe-droits, la répression sont aujourd'hui les normes. Une terreur profonde s'est emparée des personnes les plus vulnérables du pays, en premier lieu les immigrés, traqués et déportés sans droit à se défendre. Le reste du corps social est discipliné, sommé d'obtempérer. Bref, ce ne serait qu'un glissement vers l'autoritarisme réactionnaire si l'idéologie et la pratique du pouvoir n'étaient à ce point ancrées dans l'idée de la contamination par les étrangers, les ennemis du peuple et les indésirables. Et c'est là où l'historienne dit, au-delà d'un glissement vers l'autoritarisme, on a un glissement vers une fascisation. Un mécanisme de fascisation, me semble, sans conteste à l'œuvre, estime-t-elle. Les républicains, traditionnellement hostiles à la centralisation du pouvoir, sont désormais des relais zélés du gouvernement intrusif de Trump. Aucun élu local conservateur n'émet la moindre réserve. Il existe des divergences au sein de la coalition trumpienne, mais elles sont tues dans le projet général de revanche, de réinvention du pays l'uni. Quelques juges locaux tentent vaillamment de vouloir faire valoir le droit contre la force, mais je vous le disais tout à l'heure, ça c'est documenté, ils sont systématiquement désavoués par la Cour suprême, c'est vrai. Les démocrates sont à ce jour incapables de porter la résistance et d'articuler un contre-discours officiel. Ils ne sont pas remis du désastre Biden-Harris, n'ont ni direction incarnée, ni ligne, ni détermination. Et je vais à la fin de l'interview avec cette question de l'humanité à l'historienne. Que nous disent la récupération et l'instrumentalisation de la mort de Charlie Kirk du régime politique mis en place par Trump? Kirk était un intégriste religieux, un ardent défenseur de la suprématie masculine et blanche. Sa dévotion à Trump, bien plus que sa notoriété toute relative dans le pays, explique son importance politique de son pays, de son vivant. Mais avec sa mort et sa sanctification par un régime friand de spectacles politiques, Trump révèle la quête fondamentale des extrêmes droites, le désir de jouir d'une impunité autant pour moi, absolu à dominer, exclure, violenter, exploiter, réprimer au nom de leur statut de victime de l'histoire, dominé, selon eux, par la gauche. Voilà pourquoi Trump demande l'impunité pour Bolsonaro, l'ancien président brésilien d'extrême droite poursuivi par la justice de son pays. Pourquoi Meloni ou Bardella reprennent le culte de Kirk? Il s'agit de légitimer par la propagande du martyr la violence sociale, la corruption, l'alliance fondamentale de leur tradition politique envers, avec les puissants. Donc, hier, on avait, ou il y a deux jours, on avait un papier sur est-ce que les États-Unis glissent vers l'autoritarisme? C'était même précisément, à chaque fois je recherche le... Non, c'était pas autoritarisme, c'était... Vous vous rappelez? L'autocratie. On n'était pas très loin. C'est une interrogation dans la croix. Est-ce que les États-Unis sont en train de glisser vers l'autocratie? Bravo le chat. Et là, la question de l'humanité, c'est est-ce que les États-Unis sont en train de glisser... Ça, c'est la presse d'hier. Vers la dictature. Et ou vers le fascisme. Ce qui n'est pas la même chose. Ça peut être ensemble, mais pas forcément. Ok. Salut Isaria, merci pour ton message. J'ai eu la chance de tomber dessus parce que vous êtes très nombreux ce matin, je vois pas tous les messages. Salut Defecator. Merci de différencier au moins autoritarisme et fascisme. Bah, c'est le minimum quand même. C'est pas, ça peut être concomitant. Hein. Alors Lazaret nous donne des infos sur l'historienne dont nous venons de lire une interview. Sylvie Laurent, historienne spécialisée sur les États-Unis et sur la question raciale. Merci Lazaret. Salut JN91, bon cours. Ok. D'ailleurs c'est marrant parce que Il y a évidemment d'autres journaux que l'Humanité en France. Hein. Des journaux. L'Humanité, c'est un journal de gauche, c'est un journal communiste. Il y a des journaux en France comme le Figaro. Figaro, c'est un journal conservateur, c'est un journal qu'on pourrait qualifier de droite, pour faire simple. L'Opinion, c'est un journal libéral très proche des entreprises. Et en fait, je me dis qu'on pourrait essayer de trouver des papiers dans la presse, dans cette presse-là, par exemple dans le Figaro, pour dire du bien de Trump. Mais la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas vraiment... à part du côté de certains politiques, et pour le coup, pardon, mais il faut chercher du côté de l'extrême droite en France, à part du côté de certains politiques en France, il n'y a pas grand monde qui dit du bien de Trump. Oui, le RN, mais c'est ce que je viens de dire à l'instant, oui. Oui, et Kevin Danois dans notre chat, bien sûr, mais heureusement qu'il est là d'ailleurs. Mais en tout cas, si dans les. Là, on a quand même une série d'articles qui parlent d'autocratie, qui parlent de dictature, qui parlent de fascisme. Si dans les prochains jours, je trouve un article, par exemple dans le Figaro, pour dire c'est n'importe quoi, vous mélangez tout. Si je trouve cet article, je vous le lirai, parce que c'est intéressant aussi de lire ça. Et je vais essayer de vous le trouver, parce que peut-être que même je l'ai passé, je l'ai pas vu. Je suis sûr qu'on va le trouver. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'entendre les arguments des deux côtés. De même qu'il y a des Français qui se retrouvent dans l'action de Trump, qui disent ce serait bien chez nous. Bon, je vais bien trouver des journalistes qui portent quelque part cette pensée, quoi. Voilà, donc et je vais vous le trouver et puis je vous le lirai. Ça te démoralise pas de lire la presse? J'aime bien, Yanov. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Ok, allez. Pardon, je suis passé au sujet suivant, vous le voyez. Avec, on va commencer par le sommaire TikTok. Hop. Le sujet suivant, bah justement, pour le coup, on va parler de la France. Et qu'est-ce qui nous attend pour 2027? Alors, c'est bientôt, hein, de se demander en 2025 comment on va être mangé politiquement en 2027, hein, qui présidera aux destinées de la France, qui sera. On est en timing, on est comment là? 1h34, let's go. Qui sera le président, la présidente de la France en 2025, en 2027? Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un sondage sur les forces en présence. On en est où là? Si on fait une photographie aujourd'hui, si on fait une photographie aujourd'hui, des intentions de vote des Français selon les sondages, s'il y avait une présidentielle qui se tenait demain, enfin dimanche, pour qui les Français voteraient? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas posé la question ici. Moi, je suis pas un fou des sondages. Eh ben, c'est la question que se pose l'opinion. Pourquoi tu regardes le timing? En fait, c'est pour les gens qui vont regarder cette revue de presse en replay, sur Twitch, YouTube et en podcast. En fait, ça leur permet de voir dans la timeline où aller pour, ben, si, voilà, si ils veulent entendre parler du RN, de la sécurité routière, etc. Ça permet de gagner du temps. Marine Le Pen, Jordan Bardella, intouchable. Édouard Philippe, menacé par Raphaël Glucksmann. Un sondage que dévoile l'opinion rebat les cartes dans la course vers l'Élysée. Alors je vois certains et parmi de mes amis qui disent ouais, 2 ans avant, un sondage, ça n'a aucun sens. Enfin, à quoi bon? Je vous rappelle que la politique, c'est l'univers où tout est possible. La politique, c'est un univers où eh bien, les décisions des uns et des autres, des unes et des autres, sont parfois surprenantes, irrationnelles, et n'appartiennent qu'à eux. Tout le monde répète que jamais Macron ne démissionnera. Ça, c'est une espèce de. Voilà, lui, il l'a dit. Donc, oh, Trump. Putain, oh, le lapsus. Macron a dit que jamais il démissionnera, donc jamais il démissionnera. Et s'il démissionnait? Et si dans 1 heure, on apprenait que Macron démissionnait? Ou plutôt, si dans 15 jours, 3 semaines, quand il aura constaté que le gouvernement de Lecornu ne marche pas, voilà, et qu'il ne trouve pas de majorité, n'arrive pas à porter un projet de gouvernement et un budget, et qu'on est dans une situation totalement inextricable et coincée. Imaginons qu'on apprenne dans 15 jours, 3 semaines qu'il démissionne. Eh bien, votre sondage, là, votre sondage qui n'a aucun sens parce que la présidentielle est dans 2 ans. Eh bien, tout simplement, subitement, ce sondage, il vient être extrêmement intéressant. Donc, je ne dis pas que c'est probable, je dis juste que c'est possible. C'est-à-dire que c'est du domaine du possible. Macron, on peut lui reprocher plein de choses, mais il est dans une forme de, quand même de il est un peu disruptif, quoi. Il a voulu faire des choses différemment. Il a dissous en veux-tu, en voilà. Bon, bref. Le en même temps. Il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, enfin bref. Et pourquoi à un moment il ne se dirait pas finalement pour rentrer dans l'histoire, plutôt que d'aller au bout de ce mandat poussif, là où les Français ne me font plus confiance, où aucun gouvernement que je nomme n'est soutenu par l'Assemblée et par les Français, je me barre. Je me barre et je le fais pas pour moi, je le fais pour la France. Petite posture gaullienne, en mode, écoutez, j'ai beaucoup réfléchi. Manifestement, je fais plus partie du problème que de la solution. Je vous entends, voilà. Il le dit pas, mais je reviens peut-être dans 5 ans. Au revoir. Voilà. Eh ben le sondage là. Ah ben le sondage, il va nous intéresser du coup beaucoup. Voilà. On sait pas, c'est de la politique, les gars, tout est possible. Je peux revenir à mon sondage? Mais que selon que Marine Le Pen reste inéligible ou pas, ça peut changer la situation. Bah, c'est pas ce que dit le sondage Defecator. Parce que le sondage dit que Marine Le Pen soit éligible ou pas, que ce soit elle la candidate ou Bardella, de toute façon, le score du RN va être énorme. Donc ce sondage dit que ça ne change pas grand-chose. Il y a une part grandissante des Français qui veulent donner leur voix au Rassemblement national, quel que soit le candidat. C'est ça que dit ce sondage. Lisons. Alors, face au RN, le socle commun décroche. Regardez le dessin de CAQ qui est hyper bien fait là. Cac, c'est un dessinateur qui est sur l'actu, qui est très très bon. Et on voit Bardella et Marine Le Pen qui attendent, voilà, effectivement, qui se présentera à la prochaine présidentielle. Je dis même pas 2027, parce que la présidentielle, elle peut avoir lieu avant. Qui attendent, très en tête dans les sondages. Et puis, vous avez Édouard Philippe, vous avez Glucksmann, vous avez, on dirait, là, c'est Mélenchon et Retailleau, je suppose, qui se battent. Et ce que va nous dire l'article, c'est, la question est de savoir aujourd'hui, c'est en gros, qui sera le candidat au deuxième tour face au candidat du RN. Le sondage, là, il dit, bon, comme pour les dernières présidentielles, le deuxième tour, vous l'avez. Le deuxième tour, c'est un représentant du RN. C'est Bardella ou c'est Marine Le Pen. La question, c'est qui sera au second tour face à ce candidat ou à cette candidate. Voilà. Lisons. J'ai assez parlé comme ça. Au milieu d'un océan d'incertitudes créé par les doutes sur la durée du gouvernement, le cornu et le spectre d'une dissolution, la recomposition post-Macron se poursuit et même s'accélère. Enfermé dans son hôtel de Matignon, Sébastien Lecornu, le dernier fidèle du président de la République, assiste au bal des prétendants lancé vers 2027. Édouard Philippe dit ses quatre vérités à Emmanuel Macron dans le podcast Légende, tandis que Gabriel Attal acte sa rupture avec le chef de l'État lors d'un meeting de rentrée à Arras, preuve s'il en était besoin que le compte à rebours est lancé, les appétits politiques s'aiguisent. À gauche comme à droite, la primaire sera sauvage, dictée par des mouvements d'opinion parfois erratiques. À 18 mois de la présidentielle, 18 mois c'est que dalle, hein. Un sondage IFOP fiduciaire en exclusivité pour l'opinion à Sud Radio confirme ce que tous les états-majors pressentent, l'envolée électorale du RN, que rien ne semble pouvoir contrarier. Pas même la condamnation à une peine d'inéligibilité de Marine Le Pen. Que la triple candidate porte elle-même le flambeau ou qu'elle soit contrainte de le céder à son dauphin Jordan Bardella, le RN se situe à un niveau inédit pour un premier tour, 33 à 35% des intentions de vote. Que ce soit Marine Le Pen ou Bardella, c'est pour ça que la question d'inéligibilité de Marine Le Pen, finalement, elle est secondaire. On est sur 33 à 35%, un électeur sur trois, en tout cas un électeur sur trois qui se déplace, hein, au premier tour. Dans tous les scénarios testés, soit un écart de 15 à 20 points sur tous ces poursuivants. Vous avez 15 à 20 points de différence au premier tour entre Le Pen, Bardella et les autres. Du jamais vu sous la 5e, depuis 69, Pompidou, Poher. Aujourd'hui, le vote RN n'est plus un vote d'incarnation comme du temps de Jean-Marie Le Pen, c'est un vote d'alternance. Cette phrase, pour les plus vieux comme moi, qui ont connu la naissance du FN à l'époque, la mobilisation, touche pas à mon poste, le cordon sanitaire, le front républicain, la mobilisation, bref, pour faire barrage au RN, enfin au FN et puis au RN, cette phrase, elle est folle. Aujourd'hui, le vote RN n'est plus un vote d'incarnation, comme du temps de Jean-Marie Le Pen, c'est un vote d'alternance. C'est-à-dire que de plus en plus de Français se disent, maintenant on change. Hein, le RN au pouvoir. C'est plus un vote de protestation, c'est ce que semble dire Joël. C'est plus un vote de protestation. C'est un vote qui dit, il faut que le RN arrive au pouvoir. Oh, j'ai dit touche pas à mon poste. Oh putain de lapsus. C'est parce qu'on m'a passé au week-end. Je pense que ça me travaille plus que je ne veux dire. Autant pour moi. Oh merde. Ou alors c'est ma candidature à la présidentielle 2027. Je sais pas. Il y a un lapsus, c'est sûrement révélateur là-dedans. Quoi. C'est un vote d'agacement, d'illustration. Eh ben, il y a Poséidon qui veut se rassurer aussi, qui dit si Samuel, c'est un vote de protestation. Ben, je crois pas. Ça l'a été, et je crois que ce fut vrai, ça n'est plus vrai. Ça n'est plus vrai. Je crois que c'est devenu un vote d'alternance. Bien sûr qu'il y a peut-être encore des électeurs du RN qui sont encore sur un vote de protestation et d'agacement et de... on vous avertit. Mais je pense que pour l'essentiel des votes des électeurs, c'est plus ça. Quels sont tes arguments? Au hasard, tous les scores du Rassemblement National aux dernières élections. Où le parti progresse à chaque élection. Ouais. Aujourd'hui, le vote RN n'est plus un vote d'incarnation, mais un vote d'alternance, dit Frédéric Dabi, qui est le directeur général opinion du groupe IFOP. Avec une sociologie attrape-tout.
qui séduit la France périphérique et populaire. Jordan Bardella capte les moins diplômés, jusqu'à 58% chez les non-titulaires du bac, 58% des intentions de vote chez les électeurs non-titulaires du bac. 58%. 58%, c'est presque 60%. Chez les ménages modestes aussi, on est à 42-45% d'attention de vote chez les ménages qui gagnent moins de 1300 euros par mois, chez les ménages les plus populaires. Mais une proposition politique qui séduit aussi le patronat et la droite orléaniste, le jeune patron du RN, convainc près d'un tiers des chefs d'entreprise. 32%. Ah, Pupito de Berlin, ça faisait longtemps. Ça va ? Je te dis à demain. Bonne journée. Et plus d'un quart des sympathisants LR, 27%. Toujours accueillant le Samuel Etienne. Hein. Face au rouleau compresseur dégagiste du RN, il n'y aura qu'un seul ticket d'accès au second tour à se partager pour tous les autres. Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, Bruno Retailleau, Samuel Etienne. Du coup, le déterminant du vote utile réside dans cette seule question. Qui aura le meilleur profil pour battre Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Dans le bloc central, Édouard Philippe passait jusqu'ici pour le plus à même de fédérer au-delà de son camp. C'était sans quoi? C'était sans compter sur le décrochage spectaculaire de l'ancien Premier ministre. Édouard Philippe baisserait dans les sondages. Salut Alcumer. Annoncé entre 22 et 26% dans un sondage IFOP en avril dernier, il navigue désormais entre 16 et 19%. À seulement quelques longueurs de Raphaël Glucksmann qui monte 14-16%, héros de la gauche anti-mélenchoniste. Vous avez Glucksmann qui talonne Édouard Philippe. Or, il n'y a qu'une place pour le deuxième tour. Vous avez compris qu'à gros, en gros, premier candidat en tête, premier tour, un représentant du RN. Et après, il ne reste qu'une place, parce qu'il n'y a que deux candidats au second tour. Alors, ce sera qui? Un candidat rêvant, bien sûr, que le Front républicain va le porter au pouvoir. Derrière lui, Gabriel Attal, 10%. Darmanin, 7%. Pourquoi il n'y a pas Mélenchon? Il est où, Mélenchon? Ça, je comprends pas. Je vais lire l'article, mais j'aimerais bien le trouver. Ah, bah, il est là. Attends. Intention de vote premier tour. Alors, ok. Avec différentes hypothèses. Là, on a Édouard Philippe candidat et Marine Le Pen candidate. Ici, c'est Édouard Philippe candidat, Bardella candidat, Olivier Faure candidat avec Édouard Philippe aussi et Bardella. Ok. Alors, il est où mais pourquoi il n'y a pas. Ah, Mélenchon. 12 pour. Ah, 12. Ok, 12. Là, il est en dessous. 12 là. 13 là. 12 là. 13 là. 13. Ok, d'accord. Ok. Il est. Bon, je pensais qu'il serait plus haut, en fait. Bon, alors, déjà, le journal constate que Gabriel Attal et Darmanin, 10 et 7%, ne parviennent pas à s'imposer comme des recours crédibles. Glucksmann ferait plus que Mélenchon? Ben, selon ce sondage, oui, mais ce n'est qu'un sondage. Hein. Glucksmann 14-16% et Mélenchon 12-13. Donc, Attal Darmanin 17. Attal bouge beaucoup, il surjoue la rupture avec son grand frère Macron, mais ça ne fonctionne pas, dit le sondeur. En réalité, la démonétisation du bloc central n'épargne personne. 2027 sera un scrutin de renouvellement. Le sondeur, il ne croit pas du tout à un macroniste ou un ex-macroniste qui ferait un score. Quoi. Donc, exit Attal, exit Darmanin. Aujourd'hui, quoi. À équidistance entre Macron et Mélenchon, ni Jupiter ni Robespierre, Raphaël Glucksmann n'a pas ce problème d'identité politique. Testé entre 14 et 16% selon les scénarios, le leader de place publique apparaît comme un vote refuge, certes fragile mais bien réel, pour les orphelins de la gauche réformiste. Il y a un endroit où Olivier Faure est testé aussi dans le sondage. Il a 7% Olivier Faure. Waouh. Voilà. Glucksmann est potentiellement au second tour dans toutes les hypothèses, puisqu'il est dans la marge d'erreur, explique Dabi. Quoi. Donc aujourd'hui, alors il y a la marge d'erreur, il y a le fait que c'est un sondage maintenant.
Aujourd'hui, selon ce sondage, ça, donc avec beaucoup de précautions, le second tour en France, si l'élection avait lieu là demain, ce serait RN peut-être contre Glucksmann. Après, est-ce qu'il va y avoir une primaire à gauche? Qui va y aller? Il y a Villepin aussi qui commence à monter dans les sondages là. Il vient de passer les 5%. Zemmour, pour ceux qui veulent des nouvelles de Zemmour, on est à 4-5%. 4-5%, mais ça peut être une réserve de voix potentielle pour le RN au second tour, ça. Bayrou, pour ceux que ça intéresse, 3%. Alors, loin d'être une photo finish, tu m'étonnes, on va prendre ça avec énormément de prudence. Cette capture sondagière saisit une tectonique des plaques qui joue en faveur du RN. Ce qui est intéressant là, c'est pas cette photo, puisqu'effectivement, il est fort probable que la présidentielle n'ait lieu qu'en 2027, hein, même si théoriquement, une démission du président Macron est possible à tout moment. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est la dynamique. Qui monte, qui descend, qui peut créer la surprise, quoi. Loin d'être une photo finie, cette capture sondagière saisit une tectonique des plaques qui joue en faveur du RN. Mais libère aussi un espace pour une gauche modérée qui reprend des couleurs après 8 années sous le boisseau macroniste. Le boisseau, pas le boisson. Sociologiquement, les différentes familles reviennent dans leur lit, observe Dabi. Les hollandistes de 2012 reviennent à la gauche du gouvernement. Les fillonistes de 2017 se tournent vers Retailleau. Ceux qui n'ont pas retrouvé leur petit à temps en feront les frais. Bon, c'est intéressant. Et puis, bien sûr, il y a quelque chose qui n'est pas testé encore, c'est la candidature Samuel-Etienne. Hein, puisque ma candidature n'est pas annoncée, n'est pas officielle, n'est pas lancée. Vous savez, je sais que nous y allons. Nous y allons en 2027, ou nous y allons enfin, dans 6 mois, s'il faut y aller dans 6 mois, quoi. Nous irons chercher les 500 signatures. Vous m'aiderez à aller voir les élus, les élus locaux et les maires pour avoir 500 signatures. Et on co-construira ce programme ensemble. Qu'est-ce qu'on fera? On continuera à lire les journaux tous les matins. Je pense que je mettrai le jeu vidéo un petit peu entre parenthèses. Et puis le deuxième stream du jour, il sera consacré à notre programme. Et on dira, bon allez, aujourd'hui les gars, on parle fiscalité. Aujourd'hui on parle retraite. Aujourd'hui on parle sécurité. Aujourd'hui on parle immigration. Aujourd'hui on parle santé. Aujourd'hui on parle éducation. Voilà. Et je dirais, ok, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donnera? Pas grand-chose. Ça donnera le programme issu des échanges de notre communauté. Voilà. Et comme on n'est pas d'accord ensemble, tous, eh ben, ce ne sera que les propositions issues de votes, de sondages de cette communauté. Donc, dans cette communauté, il y a des gens qui ne seront pas d'accord d'ailleurs avec ce qu'on va proposer. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la démocratie. Et donc on essaiera, c'est pas vrai, essayer, on va construire un programme, on va co-construire un programme, voilà. Et puis après ce programme, on ira le porter devant les Français. On se qualifiera au deuxième tour et on sera élu, voilà. Et puis après, ce programme qu'on aura co-construit, j'irai le présenter au Parlement, aux députés, aux sénateurs, je dirai voilà, sur quel programme, les Français m'ont élu. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais ce programme, il a été soutenu par une majorité de Français, en tout cas au second tour de la présidentielle. Parce que je n'oublierai pas que je n'aurais pas été élu par tous les Français. J'aurais été élu par les candidats, par les électeurs qui seront déplacés au deuxième tour. Un des soucis en France, c'est que le président en France, il oublie toujours qu'il est. Il n'a pas été élu que par ses soutiens. Il a été aussi élu par des gens qui n'ont pas voté pour lui, mais contre un autre candidat. Voilà. Et donc j'irai voir les parlementaires. Je leur dirai, voilà le programme sur lequel j'ai été élu. Est-ce que vous voulez qu'on le traduise en texte, en proposition de loi, en projet de loi? Voilà. Donc je passerai par la voie parlementaire pour faire passer ces réformes, dépénalisation du cannabis par exemple, un exemple parmi d'autres. Et puis, bah, si ça passe au Parlement, tant mieux. Et si ça passe pas au Parlement, eh bien, dans la mesure du possible, on en fera des référendums, puisque tous les ans, il y aura un grand référendum, un joli dimanche. J'essaierai de faire ça quand il fera beau. Où j'appellerai les Français et les Françaises à se prononcer sur toute une série de réformes de manière annuelle pour que les Français ne soient pas interrogés juste une fois tous les 5 ans sur comment on doit gérer les affaires du pays, mais tous les ans en leur posant toute une série de questions. Voilà, on fera ça. Tout est prévu. Déjà. Point d'exclamation. 2027 dans le chat Twitch, et vous avez le résumé de ce programme. Il va te falloir des députés, non, pas forcément, Loïc l'Empereur. Deux pistes, deux solutions, deux voies. Ou on fait comme Macron, qui quand il s'est lancé en 2027 n'avait pas de député, n'avait pas de parti, donc il crée... comment s'appelait le parti de Macron à l'époque? C'était Ensemble, c'est, je ne sais plus. Bref, donc Macron crée un parti pour le soutenir, En Marche. Ah oui, c'était En Marche? Voilà, En Marche. Donc on peut c'est la voie Macron, voilà. Il crée un parti et se rallie dans ce parti des gens qui partagent les valeurs, les idées et le programme qu'on aura défini ensemble. Ça, c'est la voie macroniste. Ou alors, on passe même pas par la création d'un parti. Voilà. Et puis, on dit aux Français, ben voilà, voilà pour mon programme. À vous de voter pour les députés que vous souhaitez, les députés aux législatives. Et puis après, c'est un échange entre l'exécutif et le pouvoir législatif sur le programme que je viens d'évoquer. Et si ça passe pas par le Parlement, ça passe par le référendum. Alors, ça peut être un exercice assez amusant sur un plan politique. Ça peut être, imaginons que je n'ai pas les 500 signatures, imaginons que je ne passe pas le premier tour, imaginons que je ne sois pas élu président de la République, ça restera un exercice extrêmement intéressant de participation collective citoyenne au débat politique. C'est-à-dire subitement, pendant, je sais pas, un an ou deux ans de stream, on ne fera pas que commenter l'actualité, on se dira, bon, là, maintenant, si c'est nous, qu'est-ce qu'on fait? Ce sera rigolo. Ce sera intéressant. Et il en restera quelque chose. Voilà pour l'histoire. Je vous en parlerai bientôt. Chez Ronex, tu commences à être sérieux, je trouve ça bizarre, je ne sais plus si c'est une blague ou non. Certains savent déjà. Allez, quelle heure il est? Ça va, on est dans les temps. Ce qui sera très drôle, c'est si on va au bout de ce projet slash de cette blague, c'est à vous de choisir, ce sera de voir la réaction des médias traditionnels et des autres politiques à ce projet, si à un moment ils se disent, mais attends, ils le font ou ils le font pas, tu vois. Ce sera très intéressant à voir. 1h56, on passe à l'insécurité routière. Ça, c'est un vrai sujet, tiens. Hop. 1h56, insécurité routière. 3000 morts par an. Évitable, nous dit la Croix. Hop, je vous mets la petite flèche aussi du côté de TikTok, comme ça vous savez où on en est. Let's go. Il y a Ryu qui dit une blague, c'est censé être drôle, mais qui t'a dit que c'était une blague? Mille morts évitables. Après avoir stagné ces dernières années, c'est ça l'info, la mortalité routière est repartie à la hausse cet été en France. Hein. Pourtant, des leviers existent pour faire baisser ce chiffre. Clairement, on voit tout de suite que j'ai zappé. Il y a une page que j'ai oublié de capturer dans la Croix, parce qu'on voit qu'il manque une page là. Voilà, elle est ici, je vous la capture. Tchouk. Voilà. Ouais, là on est bien. Et après ce sera page 3. Ouais, c'est ça. Ok, super. Ok.
Alors, de quoi s'agit-il? La mortalité routière a été à la hausse cet été. Et l'année 2025 devrait s'inscrire dans la continuité de ses devancières avec un bilan supérieur à 3000 tués sur les routes françaises. Voilà. C'est beaucoup. Par curiosité, ce matin, je suis allé chercher le nombre de morts par cancer tous les ans. Nombre, je crois que c'est beaucoup plus. Nombre, c'est beaucoup plus. Décès, cancer. On est d'accord que le cancer, c'est la première cause de mortalité, non, en France, je pense. On est à 160 000 décès par an du cancer en France. 160 000, voilà. Donc, rapporté aux 3 000 morts sur la route. Alors, vous allez me dire, 3 000 euros, 3 000 morts, c'est quand même beaucoup moins que 360 000, quoi. On va relativiser comme ça. Sauf que ce que nous dit la Croix, c'est que ces morts-là, 160 000 morts, ouais. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. S'il y a bien une mobilisation en matière de santé qu'il faut lancer en France, c'est bien contre le cancer, quoi. Donc 3 000 morts, on peut relativiser, mais ce que nous dit la Croix, c'est que ces 3 000 morts, ils sont peut-être évitables, hein, facilement. Voilà. Un palier depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire baisser. Alors, c'est dommage, il n'y a pas un graphique de la baisse continue du nombre de morts sur les routes en France, hein, continue, voilà. Mais là on arrivera à un palier, c'est-à-dire que ça ne baisse plus, quoi. Voilà. Selon les experts et les associations, il existe encore des leviers à actionner. Hein. Des pistes pour que la mort sur la route ne soit plus une fatalité, quoi. Les statistiques de la mortalité routière ont dessiné cet été une courbe inquiétante en France, plus 18% de tués en août, on voit, c'est énorme, plus 23% en juillet. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet été, mais... Au final, l'année 2025 devrait s'inscrire dans la continuité de ses devancières, dont les bilans annuels ont largement dépassé les 3000 morts. On stagne en matière de sécurité routière, et c'est un vrai sujet d'inquiétude, dit la déléguée générale de l'association Prévention Routière. Donc on est à un plateau. Voilà. Sauf l'année 2020, Covid, où là, on était beaucoup moins sur la route. Bien sûr, quoi. Voilà. Il est loin le temps où les graphiques traçaient une pente descendante entamée en 72, quand un pic de 18 034 morts avait été comptabilisé. Je me rappelle d'une époque, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de ceinture de sécurité dans les voitures. Voilà. Puis après, on en a mis devant. Mais les enfants n'en avaient pas derrière. Puis, bon, ça paraît préhistorique, mais ça existait, quoi. La fête du Brest du 22, Samuel, arrête de rêver debout, s'il te plaît, ça devient ridicule. Alors que je suis assis. Alors que je suis assis, je ne suis pas debout. Je sais que j'ai une stature qui est très impressionnante, mais je suis littéralement assis, que je ne suis pas debout. Aujourd'hui, le palier serait-il devenu un plancher, comme s'il était impossible de descendre plus bas? Ça n'est pas une fatalité, dit la déléguée interministérielle à la sécurité routière par intérim. Il n'y a pas de seuil infranchissable, dit-elle. Le responsable associatif en est d'autant plus persuadé que des pays étrangers, eux, ont continué à progresser. Voilà. Ça vaut pour des pays qui étaient en retard par rapport à nous, mais aussi pour des pays qui étaient en avance. Donc, si les autres y arrivent, pourquoi pas nous? Meilleur élève européen en la matière, la Suède, bon, est passée de 32 morts par million d'habitants en 2018 à 22 en 2023. C'est 30% de baisse. Nous, on est à 48 morts par million d'habitants. Les stats, elles sont folles en vrai. La Suède, maintenant, ils sont à 22 morts par million d'habitants par an. Et nous, on est à 48 morts, on est x2. Bon. Donc, t'as envie de dire, qu'est-ce qu'ils font, qu'on fait pas, quoi. Pour franchir le palier, les autorités comptaient sur l'abaissement de la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 sur les routes, sur les nationales, vous le savez, en 2018, mais la mesure fortement contestée a été remise en cause dans une cinquantaine de départements. Du coup, tu sais jamais s'il faut rouler à 80 et 90, c'est super pratique. Modérer la vitesse reste pourtant un levier d'action majeur, rappelle Vincent Ledoux, directeur du projet Sécurité et Nouvelles Technologies au Centre d'études d'expertise sur les risques. La vitesse augmente le risque d'accident, mais surtout leur gravité. Parce que juste évident, quoi. Afin de mieux protéger piétons et cyclistes, de nombreuses communes ont d'ailleurs imposé le 30 km/h à la place du 50 sur leur territoire. L'association Prévention Routière milite aujourd'hui pour la généralisation de ce type de mesure, donc le 30 au lieu du 50. Un pas réglementaire que l'État n'a pas encore franchi. La métropole de Lyon, elle a fait ce choix tout en laissant chacune des communes la composant libre d'appliquer ce dispositif. 25 sur 58 communes
de Lyon l'ont adopté, résultat une baisse des accidents de 40% entre 2019 et 2024. L'autre grand levier d'action, une fois qu'on a parlé de la vitesse, demeure la lutte contre la conduite en état alcoolisé ou sous l'emprise de stupéfiants, les deux étant souvent combinés avec des excès de vitesse. Donc là, il faut se donner les moyens de plus de contrôle, de tests et d'une politique de répression. Il en va de même pour l'usage du téléphone au volant, un volet qui devrait bénéficier des progrès de l'IA avec des radars capables de détecter les conduites fautives. Pour les experts et assos, il s'agit aussi de s'attaquer par l'éducation, vitesse, alcool, stupéfiants, téléphone au volant, éducation, de s'attaquer par l'éducation à des comportements à risque extrêmement genrés. Oh là là, c'est... à chaque fois qu'on parle là-dessus, les garçons, ils crient, enfin certains garçons crient, à des comportements à risque extrêmement genrés. En 2024, 84% des responsables présumés d'accidents étaient des hommes. Il y a toujours des gars là, qui se mettent en colère quand je dis ça. 84% des responsables présumés d'accidents étaient des hommes. 77% des tués. Il faut agir sur des attentes sociales à l'égard des hommes et des croyances très tôt installées dans la vie des individus. Analyse une directrice de recherche en psychologie sur le sujet, qui évoque un véritable syllogisme. Si je conduis vite, cela montre... Je reviens à la page suivante. Que je maîtrise mon véhicule, et si je maîtrise mon véhicule, ça montre que je suis un homme. Des chantiers... reste également à mener pour davantage sécuriser les infrastructures routières. Bon, les statistiques des assureurs confirment ça aussi. Voilà, les accidents, c'est beaucoup les hommes, quoi. Donc, infrastructure aussi, hein. La baisse de mortalité routière pourrait enfin venir du renouvellement du parc automobile. Donc, vous voyez, c'est pas une mesure unique, hein. C'est un ensemble de mesures. Du renouvellement du parc automobile qui va s'accompagner de la généralisation du dispositif d'aide à la conduite à l'image des systèmes de freinage automatique. Et là aussi, la Suède, par exemple, est en avance sur la France. Et là, maintenant, vous avez des villes qui affichent des objectifs zéro mort. Hein, voilà, comme Oslo, par exemple. Alors, zéro mort, ça peut paraître utopiste, mais Oslo a connu une année avec un seul mort sur son réseau routier. Oslo en Norvège. C'est un objectif, quoi. Ok. Allez, je vous lis là-dessus. Pourquoi ne pas interdire totalement l'alcool au volant? Pourquoi ces marges qui font que les gens se permettent un ou deux verres d'alcool? C'est pas très, je suis pas sûr que ce soit encore très populaire cette proposition, Younong, mais si on réfléchissait à un programme présidentiel en matière de sécurité routière, c'est un truc que je vous soumettrais, ça. C'est-à-dire que le volant, c'est sans produit stupéfiant aucun, dont l'alcool, qui est évidemment un produit stupéfiant. Tout produit pouvant altérer la conduite, de drogue, alcool, médicaments, évidemment, 100% interdit, quoi. Voilà, tolérance zéro. Voilà. Comme ça, les gens connaissent la règle. C'est pas un verre ou deux, c'est zéro. Voilà, c'est plus simple à lire, je trouve. Fun fact, dit Marmotte, en Italie, avant, l'alcool était un fait désaggravant en cas d'accident. Waouh! Un petit peu de Chianti, ouais, mais c'est pas ta faute, t'étais bourré, quoi. Alors, Zigototo, qui nous écrit peut-être depuis son apéro, là, 11h14, truc de bourgeois qui se paye le taxi. Alors, Zigototo, si toi, tu es obligé de boire un verre ou deux avant de prendre le volant, si vraiment ça te semble une intolérable atteinte à ta liberté individuelle de t'empêcher de boire avant de prendre le volant, toi, mon bonhomme, qui évidemment supporte sans doute très très bien ça, et limite à une meilleure conduite avec un verre ou deux, ben on va pas être d'accord en fait. C'est quoi ton commentaire? C'est un truc de bobo qui prend le taxi, c'est ça? Mais moi, président de la République, j'interdirais aussi d'être bourré dans le taxi. Hein. Abstinent depuis 4 mois, me dit Passis Good, j'ai ouvert les yeux sur la présence de l'alcool en France, c'est partout. Alors c'est beaucoup moins présent que ça n'a été hein, par rapport aux générations précédentes, mais ça l'est encore un peu, ouais. Je vous lis. Hein. Alors vous êtes plusieurs à me parler de l'exemple tchèque, où les Tchèques sont parmi les plus gros consommateurs de bière en Europe et où l'alcool est interdit au volant, quoi. Si c'est un plaisir pour toi, tu peux continuer à boire, mais l'idée c'est juste que tu bois pas avant de rouler, quoi. Alors évidemment, ça va. Si on va là-dessus, tu vas avoir une levée de bouclier des lobbies. Hein, du secteur économique lié à ça en France, qui sera très intéressant. Alors ce que j'aime bien avec le débat sur la sécurité routière, c'est normal, c'est que beaucoup d'entre nous conduisent, il y a beaucoup de gens dans le chat qui ont le permis, et donc qui se sentent directement concernés. Et du coup, ça crée beaucoup d'avis, c'est extrêmement intéressant. Tonton Buzz. Assez d'accord avec la pique sur les bobos, on n'a pas tous la chance d'avoir des Uber ou des transports en commun sortis d'un resto le soir. Bah, je suis désolé, c'est peut-être très désagréable à écouter, mais si tu vas au resto le soir et que tu sais que ton seul moyen de rentrer est en conduisant, eh ben, à quel moment en 2025 c'est impossible à entendre ça? Tu ne bois pas. Tout ce qui va venir altérer ta conduite, mettre en danger ta sécurité et celle des autres que tu vas croiser au fond de ce parcours, tout ce qui peut l'altérer, donc drogue, alcool, médicaments, eh ben tu ne le prends pas. Alors, si en 2025, le 30 septembre 2025, on n'est pas en capacité d'entendre ça, si le plaisir d'un bon verre de vin au restaurant est plus important pour toi que ce qu'on vient de dire là, pour moi, il y a un problème. Question de responsabilité individuelle et sociale, quoi, et collective. Merci, Kevin. Franck me dit, aujourd'hui encore, quand tu es en soirée, en famille, entre amis, si tu bois pas, tu te prends souvent des réflexions. Bah là, pardon, hein, je veux pas être moralisateur parce que je déteste ça, moi. Mais là, c'est le problème, c'est l'entourage, quoi. si tes amis, si ta famille te fait une remarque parce que tu ne bois pas. Ça rappelle une célèbre journaliste qui avait fait une remarque à un célèbre humoriste en disant qui expliquait qu'il buvait plus et que la journaliste lui a dit « Ah là là, votre vie doit être bien triste, un truc comme ça. » C'était Artus, ouais. Mais si à un moment tu te prends des réflexions de ta propre famille, tes propres amis, parce que tu ne bois pas, ben le problème, ça n'est pas toi. Ah oui, vous êtes devenu chiant, voilà. Le problème, ça n'est pas toi. Le problème, c'est l'entourage, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a un problème de logiciel, quoi. Quelque part, c'est-à-dire qu'il t'incite à te mettre en danger, à mettre en danger les autres. Désolé, parce que son ton est très, très moralisateur. Hein. C'est pas ce que je veux faire. Hein. J'entends hein, que c'est parfois c'est très compliqué. Moi, je viens d'une région où on a la Bretagne, l'alcool facile, très festif. Et donc je connais un peu le sujet et moi-même j'ai beaucoup fauté sur cette question quoi. Et, sauf qu'à un moment quand on prend conscience de ses erreurs, il faut le dire quoi. Hein, c'est compliqué de se débarrasser de ces c'est un héritage en fait hein, que nous ont légué finalement les générations passées. Et donc c'est compliqué de se débarrasser de ça. J'entends très bien. Hein. Si vous êtes dans un cadre, un entourage qui est resté sur des représentations un peu anciennes sur le sujet, je comprends que ce soit compliqué. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais je dis que c'est des sujets dont il faut parler. C'est pour ça que j'en parle. Moi, j'ai cru longtemps, mais j'ai compris que c'était faux. J'ai cru longtemps, jeune, que pour faire la fête, il fallait être ivre. Donc, j'ai mis un certain temps avant de comprendre que c'était pas obligé, en fait. Mais trop longtemps, même. Bon, il n'est jamais trop tard pour s'en rendre compte, quoi. Mais je juge pas les gens qui essaient d'exprimer une autre opinion là-dessus. Mais je trouve que c'est important d'en parler, par contre, pour comment peut-être pour poursuivre cette prise de conscience individuelle et sociale, quoi, collective. Est-ce que tu bois toujours de l'alcool? Ça m'a plus en vrai. Mais pour des raisons annexes. Moi, je trouve qu'à une époque, j'avais un bon verre de vin, ou même autre, hein, c'est un truc que je pouvais apprécier, quoi. Mais moi, j'ai une épouse qui boit pas. Donc, du coup, à la maison, le soir, comme c'est pas un moment de partage, je me suis arrêté malgré moi, quoi. De boire ce petit verre de vin ou cette petite bière de temps en temps à la maison, quoi. Donc, il n'y a eu aucun effort, quoi. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à boire tout seul et que c'est pas un moment de partage, au fait, où je forçais mon épouse à boire, ce qui m'a pas semblé être une option. Tiens, il y a Zigo Toto qui est pas d'accord, qui dit tu es méprisant et caricatural, dommage, le sujet est sérieux. Zigo Toto, c'est toi qui nous disais tout à l'heure que tu dis que je suis caricatural, je vais te reprendre ton historique, tu vas voir que tu vas voir qui est caricatural. Où est-ce qu'il est notre ami Zigo Toto? Moi, justement, je trouve que je suis pas caricatural. Attends, t'es noyé dans la masse des messages. Vous êtes tellement nombreux à écrire là-dessus. C'est fou, ça. J'arrive même pas à le retrouver. Et vous l'avez noyé, bordel! Dans un verre de quoi, vous l'avez noyé? Bah, je te retrouve plus. C'est dingue, ça. On l'a perdu, Zigo Toto. Tu veux pas réécrire un truc? Tu veux pas écrire un truc? Ah, merci. Alors, Zigo Toto, historique. Ah oui, truc de bourgeois qui se paye le taxi, de dire qu'il ne faut pas boire au volant. Qui est caricatural? Qui est caricatural? Tu vois? Allez, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Bon, il y a 3000 morts en France. Voilà. Et puis là, l'alcool, c'est qu'un des trucs. Hein. On a vu qu'il y avait plein, 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 plein de mesures possibles, la vitesse au volant, facteur aggravant, enfin multipliant l'accident et aggravant en cas d'accident, la vitesse, la sécurité passive des véhicules, les infrastructures, la qualité des routes, l'alcool et tous les problèmes, tout ce qui vient en fait abîmer ta qualité de conduite. Mais ce n'est qu'un facteur parmi d'autres. De toute façon, c'est un combat qu'on est en train de gagner, puisque toutes les dernières études montrent que la consommation d'alcool, elle baisse dans la population, et notamment chez les jeunes. Donc, pardon, mais c'est un combat, c'est un peu un combat d'arrière-garde. Oui, les jeunes boivent de moins en moins. Alors, il y a du binge drinking, il y a le phénomène de binge drinking chez les jeunes, qui n'est pas très nouveau, mais en litres par habitant et par année, la baisse de consommation est gigantesque en France. On boit de moins en moins. Hein, c'est là où il ne faut pas confondre. J'ai vu Jojo, mon petit cousin bourré à 16 ans le week-end dernier, et les statistiques nationales, quoi. Le binge drinking existait il y a 20 ans, oui, je confirme. Alors, on enchaîne avec quoi? On enchaîne avec la suite du dossier Electronic Arts. Et ce sera notre dernier sujet ce matin. Voilà. Énorme chèque pour le changement de propriétaire d'un des plus gros studios de jeux vidéo au monde. Je vous change le sommaire. Sur TikTok, on passe donc à... Si j'arrive à l'ouvrir. Ok, j'y suis. 55 milliards pour EA. Voilà. Alors, alors, l'opération dont on parlait hier, on disait cette opération va peut-être se faire. A priori, l'info, c'est que ça va se faire. C'est confirmé. C'est la nouveauté par rapport à hier. Hop. Et on est à 2h20. 2h20, donc en replay, vous pourrez aller à 2h20 si c'est le sujet qui vous intéresse. C'est le principe du sommaire. Voilà. Et la petite flèche devant. Et faites-moi penser à envoyer le mail avec les titres et les TC à la personne qui s'occupe des podcasts, parce qu'hier j'ai fait le sommaire, mais je ne l'ai pas envoyé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai un article dans Le Figaro, page tech, et un gros dossier dans Les Échos, c'est même carrément la une des Échos. C'est intéressant quand même qu'un journal comme Les Échos, journal économique, consacre sa une à un mouvement, à une vente dans le monde du jeu vidéo, quoi. L'Arabie Saoudite. Et le gendre de Trump, décidément il est partout, font main basse sur le géant du jeu vidéo EA. Le groupe américain, derrière les jeux de foot FC, l'ancien FIFA, notamment, hein, il y en a plein d'autres, est racheté pour 55 milliards de dollars par un consortium. Alors qui est derrière cet achat? C'est ça aussi qui est intéressant. C'est un tournant dans la longue histoire d'Electronic Arts. Ce géant américain du jeu vidéo né en 82, éditeur des jeux de football FC, FIFA, deux simulations de ville et Sims, ou encore la série d'action Battlefield, dont le 6 arrive dans pas longtemps, annonce ce lundi son rachat pour 55 milliards de dollars. Si l'opération obtient les autorisations réglementaires, EA quittera Wall Street, donc ne sera plus coté, au deuxième trimestre 2026, soit 36 ans après son introduction. Il y a Medjay qui me dit, mais EA en fait c'est un casino caché à base de microtransactions. Oui, je crois que c'est le cas, notamment pour... je suis pas un spécialiste de FIFA, j'y ai joué très vite une fois. Mais FIFA, c'est un jeu qui incite à dépenser. Hein. C'est ça. Ce titanesque rachat intervient 2 ans après celui d'un autre acteur américain majeur. Et vous m'en parliez tout à l'heure. Activision Blizzard. Pour un, c'est ça. Hein. Les packs pour les joueurs. Ce dernier a rejoint l'empire de Microsoft. C'est un tout autre futur qui rejoint son rival historique, puisque EA est acquis par un consortium de fonds d'investissement qui auront par nature vocation à le revendre dans quelques années qu'à bénéfice à la clé. Ok. On dit... Ah oui, je prononce très mal. On dit pas EA, on dit IA. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il faut le dire à l'anglo-saxon, autant pour moi. Je vais essayer de m'appliquer pour les prochains. Alors, et c'est un modèle utilisé partout, me dit Sugar. Valo, moi j'adore. Mais Valo... C'est quand même un jeu gratuit, c'est mon jeu de cœur, mais on est d'accord que Valo fait quand même tout pour te faire acheter des skins, quoi. Donc, est-ce que c'est plus vertueux? Sinon, on dit Electronic Arts, c'est plus simple, je suis d'accord. C'est pas au point de FIFA, me dit-on. Valo, c'est soft. Okay. Moi, je connais des gens très bien, même d'un certain âge, qui ont dépensé beaucoup d'argent sur Valorant. Hein. Ah, mais FIFA, c'est pas. Oui, c'est peut-être pas pour gagner. Eh oui, très intéressant. Valo, tu paies des skins sur FIFA, tu paies. Ah oui, c'est très différent. Tant pour moi. Merci Scream Killer. Des joueurs de meilleure qualité. Donc c'est un pay to win. D'ailleurs, à 18h, je découvre un nouveau jeu, là, World of Tanks, dont on a déjà parlé avec World of Warships. Puisque certains disaient attention, c'est aussi un jeu qu'incite à dépenser. Et vous m'avez dit, ouais, mais c'est pas un pay to win, c'est un pay to what? Vous m'avez mis une petite nuance par rapport à FIFA. Vous pouvez me rappeler? C'est un pay too fast. Alors c'est quoi ça déjà? C'est quoi la nuance finalement? Il y a donc pay to win. C'est un pay to win plus vite. C'est un pay to progress. C'est pour aller plus vite, débloquer du contenu plus rapidement. Ok, d'accord. Payer pour aller plus vite, mais qu'est-ce que tu me dis? C'est intéressant. Pas nécessaire pour progresser. Merci Triss et Teratops. Ok. Ok. Tu skips le farming. Ok. Donc c'est moins grave. Ok. Enfin, vous êtes fort quand même. Vous êtes fort. Donc merci Bertuslan. Dans ce jeu, tu as différents niveaux de char. Tu avances plus vite en payant. Ok. Ok. Bon, je crois que ce soir, moi je découvre le jeu là. Ce soir, et j'ai un compte, j'ai tous les chars. Bon. Tout va bien. Bon, on se retrouve à 18h pour en parler. Revenons sur notre achat là. Il peut nous laisser sur TikTok? Bien sûr, Thibaut, que je me balade entre les deux chats. Qui m'appelle là? Pourquoi j'ai plein de SMS? On verra tout à l'heure. Donc, si l'opération obtient les autorisations réglementaires, donc EA quittera Wall Street au deuxième trimestre de 2026, 36 ans après son introduction. Ça sort de la cotation en bourse. Titanesque rachat, qui intervient 2 ans après celui d'un autre acteur américain. Activision Blizzard, ça on en parlait. Voilà. Donc a priori, le consortium achète aujourd'hui pour revendre dans quelques années plus cher, si ça vous intéresse. Voilà. Rationalisation en tout genre et autres cessions d'actifs devraient donc rythmer l'avenir d'EA. D'accord. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est un mouvement, c'est un truc capitalistique, quoi. Alors, qui achète? La composition de ce consortium est singulière, nous disent les échos, et ça m'intéresse. Le premier partenaire est Silver Lake, investisseur phare de la Silicon Valley depuis près de 30 ans. Voilà, qui a récemment acquis Endeavor, le groupe sportif propriétaire du championnat de MMA, MMA Ultimate Fighting. Silver Lake qui est aussi dans le consortium qui pourrait racheter la branche américaine de TikTok. Le deuxième partenaire est Affinity Partners, structure créée par le gendre de Trump, hein, Jared Kushner. Et ce groupe, Affinity Partners, doit la majeure partie de ses liquidités à des fonds souverains du Moyen-Orient, comme le Qatar Investment Authority, l'Émirien Lunate et le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, le fameux PIF. Et justement, le PIF, qui est déjà au capital du truc de Kushner, là, le PIF est le troisième et dernier acteur de ce consortium. Voilà. Le PIF qui s'intéresse beaucoup aux jeux vidéo me rappelle Sugar, ils ont financé l'eSport World Cup à Riyad. Si le PIF restera au même niveau une fois le rachat bouclé, l'actionnariat de l'éditeur de jeux vidéo deviendra bien plus moyen-oriental qu'aujourd'hui. Alors, comme le rappelait Sugar à l'instant, l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour l'industrie du gaming n'est pas nouveau. Il est même guidé par MBS, hein, le patron du pays, Mohamed Ben Salman, qui se revendique fan de jeux vidéo et a acquis en 2022, via sa fondation, le spécialiste japonais des jeux de combat SNK. Alors ça, je ne savais pas. Le fameux PIF, donc on va rappeler le PIF, le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, est présidé par Ben Salman directement, a pour but de diversifier les revenus du royaume et détient de multiples participations chez des géants cotés en bourse du secteur comme Nintendo. « Le PIF a par exemple financé une extension du jeu d'Ubisoft Assassin's Creed Mirage qui se déroule dans l'oasis saoudienne de Al-Hula. Il entend faire du royaume une plaque tournante de l'e-sport, arrachée en ce sens en 2022 des organisateurs d'événements d'e-sport. Comment ça, Maxime Biaggi est concerné dans le rachat par le PIF? C'est interdit, ça juge. C'est interdit, ça juge. Interdit, ça. Voilà. On rappelle que l'Arabie Saoudite doit organiser les premiers JO de jeux vidéo en 2027. Il sera aussi le pays hôte de la Coupe du Monde de football 2034. Co-détenir le créateur du jeu vidéo de foot le plus vendu au monde est donc une synergie intéressante et pourrait donc conduire au rabibochage d'EA avec la FIFA. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu divorce entre le studio et la FIFA. C'est pour ça que le jeu a changé de nom. Avec ce rachat, l'Arabie renforce sensiblement sa position dans l'échiquier mondial du jeu vidéo. C'est intéressant parce qu'on va plus loin qu'hier quand même. Mais cette opération est aussi l'illustration de la période de fragilité que traverse l'industrie du jeu vidéo. Hein, 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Les ingrédients sont désormais bien connus. Des investissements mal avisés durant la période faste du Covid. Explosion des coûts de développement. Surproduction généralisée. Mutation dans le comportement des consommateurs. Le marché de la console n'est plus en croissance. Voilà, bien des jeunes joueurs consacrent leur temps et leur argent à des titres en ligne, Fortnite, Roblox, Minecraft, parfois à l'exclusion de tous les autres. Ces ingrédients rendent difficile le succès commercial, le retour sur investissement de nouveaux jeux, de projets, dont les budgets dépassent parfois allègrement la centaine de millions de dollars. Alors, du côté de EA, par exemple, tous les regards sont aujourd'hui tournés vers Battlefield 6. Hein, salut Claudie Faucon, qui sort dans quelques jours, le 10 octobre, et qui fait face à la rude concurrence de Call of Duty. Voilà, EA a récemment stoppé certains projets, dont le jeu tiré de la licence Marvel Black Panther. Voilà, il ne serait pas surprenant que le groupe se ressente sur une poignée de licences dans son empire de jeux de sport. Si l'objectif du consortium, comme nous l'expliquent les échos, est de faire de la thune, de la moula, en achetant le truc, en le revendant dans quelques années, ou, voire par compartiment, ce serait assez logique de les voir en fait limiter leurs investissements, limiter les projets, pour se recentrer vers ce qui leur apporte le plus d'argent, pour au moment où ils revendent, ils aient que la mariée soit la plus belle possible, quoi. Vous le disiez, l'article le dit aussi. EA, une cash machine, sortant chaque année de nouveaux opus, est rendue encore plus juteuse par de redoutables mécaniques d'achat additionnel. Monnaie virtuelle, amélioration des statistiques, déblocage de joueurs professionnels. L'an passé, EA a engrangé par ce biais, donc les trucs additionnels là, les achats additionnels, 5,4 milliards de dollars. 75% de ses revenus viennent de ça en fait. Waouh. Malinx le lynx. Ok. C'est intéressant, hein. Et ça c'est l'article du Figaro, mais il y a aussi un article dans les Échos aussi sur le même sujet. Je vous lis un petit peu. Pour l'exclamation pigeon, dit Oubian. Ouais, mais c'est bien fait, ils sont forts. Je vous lis. Ouais, quand le cadre d'une LBO, et donc MMG a raison en fait, parce que. En fait, si j'ai bien compris, cet achat se fait notamment par endettement de la société à racheter. Vu qu'il y a emprunt, les premières mesures vont être de faire des coupes drastiques et de licencier. C'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible, ouais. Ce sera intéressant de voir ce que vont faire les nouveaux patrons, les nouveaux actionnaires, quoi. Apolline dit, c'est peut-être la fin du storytelling et la créativité au profit de l'argent facile. C'est pas impossible. Major Phoenix nous dit, moi je travaille avec eux, donc peut-être qu'il y a inquiétude. Salut, quelle idence. Hein? Je pense que Jolan 93 résume le sentiment général en disant: ils sont forts, mais ils n'ont pas mon admiration, loin de là. Waouh. Très intéressant. Est-ce que les échos disent autre chose que le Figaro là-dessus? Est-ce qu'on a d'autres infos? Je regarde vite. Ah, ça revient un petit peu sur l'histoire déjà du groupe, enfin de l'entreprise. Fondé en 82, c'est intéressant, 82, le groupe de Redwood, Californie, se cantonne à un rôle d'éditeur à l'époque et développe peu de jeux en propre. Et en 93, son nom commence à se répandre chez les joueurs du monde entier. EA Sports, It's in the Game. Les amateurs de ballons ronds, détenteurs d'une Mega Drive, d'une Super Nintendo, ça va rappeler des souvenirs, peuvent entendre pour la première fois le slogan historique du groupe qui se lance alors dans son premier jeu vidéo de foot, FIFA International Soccer. On est en 93. Un jeu qui va s'écouler à 500 000 unités en un mois. Volume énorme pour l'époque. C'est ça qui lance vraiment EA, quoi. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Numéro 1 mondial, EA va ensuite vivre la crise de la fin des années 2000. Alors que l'industrie bat de l'aile, la société qui n'a pas cru au succès des consoles DS et Wii de Nintendo en pèle prix enchaîne 12 trimestres d'affilée dans le rouge, en multipliant les plans de restructuration. Après, il y a la remontada de FIFA. Voilà. Après, il y a un passage sur la génération de consoles Xbox 360 et PS3 mieux négociés. Il y a des rachats aussi de studios. Et aujourd'hui, on en est à 7,46 milliards de chiffre d'affaires. Bénéfice, 1 milliard. Voilà, pas mal. En tout cas, intéressant que la presse traditionnelle, la presse écrite, ici, les Échos et le Figaro se penchent sur ce rachat. Ça montre que aujourd'hui, enfin, aucun journaliste sérieux ignore que le jeu vidéo est un fait culturel, est un fait économique majeur, quoi. D'ailleurs, a priori, cette opération rentre comme le plus grand LBO jamais fait de l'histoire, et pas seulement dans l'univers des jeux vidéo, quoi. Salut Asti. Non, Madagascar, rien n'est ono. Mais je surveille, je surveille. C'est fou. À un moment, on ira chercher tout seul, hein. Parce que vous êtes plusieurs depuis quelques jours à me dire est-ce qu'il n'y a pas d'article sur Madagascar dans les journaux que tu lis? Non. Là, on a un sujet. Donc, voilà. Et bon, bah, on ira chercher sur Internet. Il y a peut-être des articles sur les sites Internet de ces journaux qui ne vont pas forcément dans le PDF, mais je suis comme toi. En tout cas, si ça continue à être le cas demain ou après-demain, on ira fouiller, on ira chercher. Merci les amis. Bon, moi j'ai un Teams dans un quart d'heure sur ben, de bilan de cette première semaine de podcast, puisque désormais, tiens, je vais vous enlever tout ça. Hop. Je vous enlève aussi tout ça ici. Puisque désormais, cette revue de presse, depuis une semaine, elle est en podcast. Ça fait littéralement 5 ans que les gens me demandent de mettre cette revue de presse en podcast audio. Sur Spotify, Deezer, etc. Sur toutes les plateformes. Et j'ai attendu 5 ans pour le faire. Merci beaucoup Benjo, tu régales pour le mail. Les audiences sont bonnes, ouais. Enfin, moi j'y connais rien. Bah, justement, ils vont me dire ça tout à l'heure. Là, on a. Alors, j'y connais rien. On a 30 000 écoutes sur la première semaine. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Ils ont l'air de dire que c'est bien. Mais je n'y connais rien. Donc là, j'ai une réunion là, avec les gens très, très sympathiques qui m'accompagnent là-dessus. Pourquoi en plusieurs parties? Je sais pas. Ils m'ont dit que 3 h ou 2 h 30 c'était trop. Donc, ils ont mis deux parties. Millium. Alors là, pour le coup, c'est eux qui maîtrisent, quoi. C'est en direct. Ah bah non, du coup, c'est en replay. Donc là, je fais un petit point à midi. avec les gens qui font ça, en fait, qui récupèrent mon flux audio, qui le postent sur toutes les plateformes. Là, c'est du boulot, en fait, c'était énormément de boulot. C'est pour ça que j'ai essayé de le faire tout seul il y a longtemps, mais c'était impossible, quoi. Tous les jours. Et donc, le découpage, la mise en forme, un tout petit peu de montage. Donc, c'est vachement de taf. Donc, voilà, j'ai trouvé des gens qui veulent bien le faire avec moi. Effectivement, c'est cool parce que ça touche un autre public. Et puis, c'est aussi pratique pour les gens qui veulent écouter un podcast, quoi. Voilà. Merci Calidance pour son analyse. Calidance me permet. Hein. 30 000 selon moi, c'est pas terrible, mais j'y connais rien. Du coup, c'est peut-être pas mal. Eh bien, je suis comme toi, je pense la même chose. C'est quoi ce bruit? Je crois que c'est une perceuse. Il y a quelqu'un qui fait la perceuse. Merci les amis. Bon, à demain matin. Puisque la revue de presse maintenant, c'est pas quand on peut, c'est pas dès que je peux, c'est tous les jours. Un long temps, pendant 5 ans, ça a été mon principal rendez-vous sur Twitch. Et j'ai essayé de le faire tous les jours, mais hop, un petit rendez-vous, une petite réunion, une vidéo à faire, un truc. Bah, du coup, parfois, je le faisais pas. Maintenant, c'est tous les jours. C'est du lundi au vendredi. Et les rares fois où on est empêché de le faire le matin, eh ben, on le fait l'après-midi ou le soir. Donc, la revue de presse, c'est tous les jours sur Twitch, sur TikTok, en replay sur YouTube et désormais en podcast. Amis de TikTok, je vous remercie. Je vous dis donc à demain matin. Je pense vers 9h, 9h30. Je vous souhaite une belle journée. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. Je vous dis à demain. Je cut. Et sur Twitch, on va faire un raid, ce qu'on peut pas faire sur TikTok. Dommage, il manque des petites fonctionnalités sur TikTok qui pourraient être sympas aussi pour le live. À demain. Salut les amis. Amis de Twitch, un petit raid. Merci pour ce matin, c'était cool. L'actu est vachement intéressante en ce moment, en vrai. Un mode lent aussi. Ça se passe bien, la gestion du chat, en vrai. Il y a des dingues de deux côtés, hein. Qui est en live, là? Arrête, Sugar, avec cet ostracisme de TikTok. Je te vois, hein. Je sais que tu râles. Les amis, ils sont en train d'arriver. Ils sont en région parisienne. Moi, je trouve ça incroyable ce qu'ils ont fait. Voilà. Bailan et Nico. Voilà. Et je les ai raid plusieurs fois. Je les raid pas tous les jours. Parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous. Ils font des audiences de fou. Mais Bailan et Nico, je trouve ça incroyable ce qu'ils ont fait. Qui aurait parié au début sur le fait qu'ils iraient jusqu'au bout? J'ai vu tellement de gens, quand ils sont approchés de Lyon, là, de Montélimar, en disant « Mais jamais ils iront au bout », je l'ai vu dans ce chat, quoi. Jamais ils iront au bout. Ils y sont. Ils sont en région parisienne. Ils sont du côté de Fontainebleau, je crois. Ils sont en train d'arriver sur Paris. C'est juste incroyable. Et rien que pour ça, il faut les féliciter. Moi, je trouve ça assez beau, ce qu'ils ont fait. Donc, on va aller voir Bailan, puisque c'est sur la chaîne de Bailan et Nico, qui relie donc Montpellier à Paris, un donation goal du The Event. Bailan, c'est parti. Pourquoi je le trouve pas? Je dois l'écrire n'importe comment. Pourtant, c'est... Ah oui, c'est ça. Ah, mais... Je vais y arriver, bougez pas. Avec mes gros doigts, là. B-Y-I. Les amis, c'est parti. Merci encore. On se retrouve à 18h pour découvrir ensemble World of Tanks. Voilà. Là, j'ai ma réunion. Après, je vais lancer le jeu pour essayer de pas être trop hésitant. Ah, waouh, il fait super beau. Je sais pas où ils en sont, là. Mais ils sont sur un pont. Je raide tout de suite. Ils sont sur un pont. Ça a l'air super. À tout à l'heure, 18h. On va péter du tank. Je pense que ça va être rigolo, en vrai. Merci. Et puis, pourquoi pas un troisième live après, on verra. On verra. C'est parti. Merci encore et je vous dis à tout à l'heure. Merci pour ce matin, c'était vraiment super. Ciao, ciao.